Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti en Bourgogne. J'ai pris un petit train direction Nuits-Saint-Georges et j'ai rencontré Thibaut Ligier-Belair. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Je ne pense pas. En tout cas, il m'a été recommandé par Yvan Massonnat et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé un super moment ensemble. On a parlé de beaucoup de choses, philosophie, de son enfance, de sa découverte du vin, de sa formation, du domaine des jeunes pousses, évidemment, que je vous invite à découvrir. On en parlera plusieurs fois à l'intérieur avec Thibaut. Et c'est un sujet qui est ultra intéressant et qui nous tient beaucoup à cœur. Donc essayez d'ores et déjà de découvrir le domaine des jeunes pousses. J'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Envoyez-la à au moins deux personnes. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de très belles dégustations. À très bientôt. Salut.
Dommage, ça aurait fait un beau...
Je leur donnerai, ça fait pas, j'ai plein de...
Ça aurait fait une bonne intro.
J'ai plein de punchlines.
Okay. Parfait. Bonjour Thibaut.
Bonjour Antoine, bienvenue.
Merci de nous accueillir ici à Nuits-Saint-Georges. C'est un plaisir pour nous de venir à votre rencontre et de passer un petit peu de temps ici. Alors on a commencé juste avant l'interview par ouvrir une bouteille et en parler un tout petit peu. On y reviendra bien sûr, mais ça nous a permis de nous faire arriver et puis de pouvoir déguster un petit verre aussi en même temps qu'on en discute. On va parler de beaucoup de choses et je remercie déjà Yvan Massonnat d'avoir fait la passe décisive, de m'avoir recommandé de venir à votre rencontre quand j'étais allé le voir. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, monsieur. Alors, donc moi, je suis Thibault Ligé-Belair. Je suis vigneron de Anhuy-Saint-Georges depuis la création du domaine en 2001. Donc, j'ai une histoire familiale un peu particulière puisque ma famille est en Bourgogne depuis 300 ans maintenant, depuis 1720, création de la maison de négoce en Bourgogne, qui était surtout une maison de négoce en fait. Dans ces vieilles familles bourguignonnes, ça se faisait pas d'être vigneron, c'était plutôt considéré comme un métier de paysan. Et donc, la plupart du temps, le père décidait pour les enfants ce qu'ils allaient devenir, c'est-à-dire on avait à la fois l'aîné qui en général reprenait le flambeau, le deuxième qui partait en général à l'armée, le troisième qui devenait prêtre, c'était souvent le cas.
C'est ce que je termine.
Voilà, et puis pour les filles c'était moins drôle, on leur demandait d'épouser le voisin de vigne et puis le père disait que l'amour viendra après. Quelquefois c'était vrai, quelquefois ça venait pas du tout, mais en tout cas ça permettait de faire prospérer les domaines. C'était une autre époque, heureusement elle est un peu révolue. Et donc moi j'ai un parcours, comme je vous disais, un peu particulier, puisque mon grand-père a dit à mon père dans les années 70, au moment de la crise pétrolière où le vin se vendait vraiment pas, a dit à mon père: va surtout pas dans le monde du vin, il y a aucun avenir. Et donc j'ai décidé par moi-même de recréer le domaine, et c'est pour ça que le domaine s'appelle Thibault Ligé-Belair et non pas simplement domaine Ligé-Belair, puisque l'histoire c'est que j'étais plutôt un cancre, je faisais pas grand chose à l'école, ça m'intéressait pas beaucoup, et tous les week-ends j'étais en pension à Dole dans le Jura, à peu près 60 km d'ici dans la plaine, et tous les week-ends je rentrais chez ma grand-mère. Et puis au lieu d'être avec ma grand-mère, enfin, c'était pas très rigolo, 60 ans d'écart, sauf si on aime jouer au Scrabble ou
aux petits chevaux là.
Aux petits chevaux, voilà. Donc et en fait, je passais ma vie à parcourir, à traverser le jardin, puisqu'on louait en fait la maison, enfin la vieille maison, on avait en face une petite cuverie, et on louait cette cuverie à un vieil ami de mon père, Bertrand, qui a été vraiment mon mentor, en tout cas celui qui m'a fait comprendre que ce métier était fait pour moi. Et j'y allais à l'âge de 14 ans comme une petite souris à ouvrir la porte en demandant s'il était là. Il était là tous les week-ends, il s'arrêtait jamais de travailler, enfin ce que je pensais être un travail finalement. Et puis un jour je lui ai posé d'ailleurs la question, et cette question a vraiment changé ma vie, puisque je lui ai dit: pourquoi tu t'arrêtes pas le week-end, pourquoi tu prends pas une pause? Du haut de mes 14 ans, je lui ai posé cette question, il m'a fait une réponse assez étonnante. Il m'a dit: mais Thibault, est-ce que je travaille? Probablement pas. Et est-ce que j'ai besoin de me reposer? Certainement oui. Est-ce que j'ai besoin d'être devant ma télé sur un canapé à regarder la télé et à rien faire? Certainement non. Et en fait, là où je suis bien. C'est-à-dire que mon travail, c'est ma vie, et que ce soit le week-end ou la semaine, ça change pas. Et donc le rythme de ma vie, c'est le rythme de mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Et à 16 ans, j'ai dit à papa: c'est ce que j'ai envie de faire. Donc mon père travaille dans la finance. Moi, je suis né à Paris. Je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de 14 ans. Et j'ai démarré mes études finalement très rapidement, puisqu'à l'âge de 16 ans, j'ai travaillé à Beaune. Enfin, j'ai fait mes études à Beaune, puis ensuite dans le Mâconnais, puis dans le Beaujolais. J'ai fini par un BTS Vitionneau dans le Beaujolais. Donc, ce qui m'a d'ailleurs laissé des traces, puisque j'y suis retourné quelques années plus tard, en 2008, avec la création du domaine à Moulins-à-Vent, puis encore un peu plus tard, avec la création du domaine des Jeunes Pousses en 2015, avec Yvan Massonnat d'ailleurs. Et après mes études, j'ai fait d'autres choses, puisque je me suis dit: c'est bien d'avoir appris, en tout cas, les bases de la connaissance du vin, de l'œnologie, de la viticulture. Mais ce qui est encore plus important, c'est aussi de savoir le vendre. Parce que si on fait des beaux vins, on essaye de faire des beaux vins, c'est beaucoup de notre énergie. Mais la priorité, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire les plus beaux vins du monde, si c'est pas les vendre, personne pourra en profiter. Et donc, j'ai voulu comprendre un petit peu, passer un peu de l'autre côté de la barrière. Et donc, j'ai travaillé 2 ans pour une société qui s'appelle Ficofi, qui fait des événements autour du vin extrêmement haut de gamme, où je m'occupais des achats et de la présentation des vins. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes très bons amis, qui est Marc Perrin, de la famille Perrin de Beaucastel, et qui m'a proposé de rejoindre dans une aventure qui était la création d'un site de vente de vin sur Internet en 99, qui était Wine & Co. Et donc je l'ai rejoint un petit peu les yeux fermés. On a commencé dans un tout petit bureau à quelques personnes pour se retrouver une année plus tard dans un énorme open space à Aix-en-Provence à 65 et en une aventure extraordinaire qui nous a tous permis de vraiment comprendre à la fois la démarche d'entreprise, puisque en fait pour être vigneron faut être agriculteur, faut être œnologue, faut être vendeur de vin, faut être directeur marketing, directeur export et chef d'entreprise. Et donc de pouvoir gérer cette entreprise avec lui, avec mes associés, c'était une très belle expérience pour justement pouvoir l'appliquer d'une manière un peu différente et peut-être avec un regard un peu plus start-up qu'un regard plutôt domaine familial. Sans perdre l'un ne veut pas dire sans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un regard un peu plus moderne dans la gestion d'entreprise sans forcément en perdre le côté traditionnel d'une entreprise comme la nôtre, qui est un domaine avant tout et qui se doit de rester finalement très traditionnel.
Ça nous fait un panorama d'activités et pas mal de choses sur lesquelles revenir. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu justement sur le début. Donc, votre grand-père dit à votre père, ne va surtout pas dans le vin.
Il n'y a aucun avenir, ouais.
Il n'y a aucun avenir, voilà, c'est mort.
Ouais, complètement.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, du coup, la maison familiale prend fin ou ça existait?
Alors, c'est une bonne question, effectivement, puisque la maison familiale, donc la maison de négoce, malheureusement, périclite. Mon grand-père, paix à son âme, était pas un grand passionné du vin, mais son père l'a mis là, son arrière-grand-père était un vrai passionné. Et malheureusement, les différentes crises, les années 70 ont été des années quand même relativement compliquées. Et donc, la maison n'a pas survécu à la crise pétrolière. Et elle a été vendue, donc là, c'était une liquidation en 78. Donc voilà. Donc ça, en fait, la maison de négoce en tant que telle a été liquidée. Heureusement, les vignes étaient en nom propre et les vignes étaient déjà en location. Donc moi, quand j'ai voulu reprendre le domaine, j'ai récupéré des vignes qui étaient en location depuis une soixantaine d'années. Et donc le nom d'Ijebeler avait été vendu également. Des bâtiments ont été vendus. La vieille maison qui est au centre du village, qui est une grande maison, a été rachetée aux enchères par mon père post liquidation judiciaire. Donc ça a dû être assez épique, j'étais trop petit pour m'en souvenir, et donc heureusement les vignes étaient encore en nom propre et conservées, voilà, et conservées dans le giron familial.
OK, donc ça veut dire que quand vous êtes revenu en Bourgogne un peu plus tard, vous aviez tout le bagage d'expérience et sur lequel on va revenir et d'aventure entrepreneuriale,
des bases
et ces vignes aussi pour démarrer, quoi.
C'est ça. Alors moi je dis souvent, je suis né avec une énorme cuillère en or dans la bouche, pas une cuillère en argent, mais vraiment une cuillère en or. J'ai eu la chance, quand je me suis installé, d'avoir quand même des très belles vignes comme des Nuits Saint-Georges, des Vosnes Romanées, j'ai racheté également des Nuits Saint-Georges, des Clos Vougeot, des Richebourg, enfin c'est vraiment le rêve, ouais. Effectivement, quand on démarre, et je savais que ce que j'avais dans les mains était un bien précieux qui avait pas forcément autant la valorisation que celle qu'on peut avoir aujourd'hui en Bourgogne, qui est délirante et qui surpasse tout ce qu'on a pu imaginer et qui devient malheureusement plutôt un fléau qu'une bonne nouvelle pour la Bourgogne. Mais l'objectif, c'était de pouvoir rebâtir. C'est-à-dire, c'était pas parce qu'on a des grands crus qu'on a une plus grosse responsabilité que si on avait simplement des Bourgognes ou des Hautes-Côtes. Et d'ailleurs, je me suis empressé d'acheter, parce que c'était possible encore à l'époque, des Bourgognes, des Hautes-Côtes de nuit, parce que je trouve que l'équilibre d'un domaine, il se fait par les entrées de gamme et pas forcément par les grands crus. Les gens peut-être attendent tellement d'un grand cru qu'ils peuvent être déçus. N'attendent pas autant d'un Bourgogne et peuvent avoir une belle surprise. Et en fait, il faut créer une histoire quand on crée un domaine. Il faut écrire une histoire. Et moi, j'avais la chance d'avoir une histoire familiale, mais qui malheureusement avait un peu disparu et qu'il fallait réécrire. Et donc voilà. Donc là, il fallait vraiment refaire la préface. Et la préface, c'était déjà faire un gros travail à la vigne.
On reviendra sur justement l'arrivée et le début de ce domaine. Comment est-ce que réagit votre père quand vous lui dites tu sais, tous les samedis, en fait, je prends du plaisir à aller en cuve, à voir comment ça marche et tout ça. J'aimerais bien moi aller dans le vin, comment est-ce qu'il réagit?
Alors, c'est quelqu'un qui est très éloigné du monde du vin, même s'il a, même si grâce à lui en fait le domaine existe toujours. Comme son père l'avait un peu éloigné ou lui avait dit ben ça m'intéresse pas, et puis qu'il voyait son père qui n'était pas forcément épanoui dans ce métier, donc il n'avait pas forcément envie d'y aller. Et donc en fait il a mené en fait le domaine plus en tant que propriétaire, en cédant les vignes à des métayers, en vendant la moitié de la récolte à un autre négoce, et donc plus en disant bah tiens je viens pendant les vendanges, et moi c'est ce que je faisais, compter le nombre de caisses et de voir le nombre de fûts qu'il y avait à l'arrivée, en fait c'était ça qui l'importait, et moins la qualité, puisque finalement c'est pas lui qui allait s'occuper de l'élevage. Donc forcément il était un peu éloigné, et quand j'ai commencé à lui en parler, il a été un peu surpris, pas surpris dans le mauvais sens, en disant t'es sûr, parce que c'est quand même un métier difficile, et il va falloir, il y a des belles vignes, il va falloir quand même que tu t'y mettes, quoi. Et j'avais 16 ans, donc à 16 ans, on est encore pas forcément aguerri, on n'a pas forcément toutes les idées en place, et on bouillonne de tas de projets. Quelquefois, un projet du jour oui, est remplacé incroyable. Par celui du lendemain. Donc, et en fait, c'est fortement ancré. Il a vu que moi, je suis pas un intellectuel, je suis un manuel, et donc j'ai toujours voulu travailler de mes mains, faire quelque chose de mes mains, et j'ai toujours été toujours eu quelque chose dans mes mains, j'ai toujours voulu en faire quelque chose, et donc forcément de travailler la terre, de travailler une vigne, de travailler, de pouvoir ou être aussi un peu ingénieur dans notre métier, dans le sens où il y a besoin de construire des choses, il y a au début quand on n'a pas le sou pour l'acheter, on le construit, et ça j'ai fait beaucoup, j'ai acheté un poste à souder, j'ai fait beaucoup de choses moi-même, des choses qu'on cassait, des choses qu'on marchait, mais c'est tout ça qui me plaisait en fait dans ce métier, et ce côté où on crée quelque chose de nos mains. Et quand il a vu ça, il s'est dit, il y a probablement c'est ce qu'il a envie de faire. Et puis de toute façon, enfin, qui me disent non ou oui, de toute façon c'est ce que je voulais faire, donc ouais. J'étais assez je suis quelqu'un d'assez têtu, donc il a compris que c'est ce que je voulais, et puis il a dit ben finalement vas-y quoi, et puis on verra. Donc mais c'est pas que mon père, c'est aussi maman.
OK.
Qui a aussi poussé en disant je pense qu'il est fait pour ça.
Ouais,
alors qu'elle connaissait pas du tout le monde du vin. J'ai cette ambiguïté d'être à la fois né d'un père bourguignon et d'une mère bordelaise. Alors je suis soit un doux mélange, soit un bâtard, j'en sais rien, mais en tout cas ça laisse des traces. Donc après évidemment avec un pied très très ancré en Bourgogne par l'histoire familiale, mais effectivement c'était quelque chose qui était ancré en moi, et j'avais compris que c'est quelque chose qui me passionnait. En tout cas, si j'étais pas passionné par ça, je voulais l'être, ce qui est très différent. C'est-à-dire que je voulais, en fait je pense qu'on est tous faits pour avoir une passion, et quand on la trouve c'est absolument génial, et je souhaite à tous les gens que je connais qui n'ont pas de passion d'en trouver une, parce qu'il y a rien de mieux, parce que ça nous apporte beaucoup de bonheur.
Donc, on a parlé motivation pour aller dans le vin. Vous dites votre mère a décelé ça de la même manière. Elle a décelé que c'était, enfin, elle a vu que c'était quelque chose que vous aviez envie, ou il y avait des signes un peu. Elle vous en a parlé un jour?
Non, pas forcément. Non, pas du tout. Non, c'était juste que comme j'étais à Nuit-Saint-Georges et qu'eux étaient à Paris, je les voyais une fois par mois. Donc et elle a vu que je commençais à en parler et que j'avais vraiment une envie de pouvoir d'aller dans cette voie-là. Donc et puis effectivement elle a compris, et puis c'est une décision qu'ils ont prise à deux, en se disant ben voilà, je pense que c'est Thibaut, il fait pour ça, et en tout cas s'il a envie d'y aller, laissons-le faire. Donc puis on verra bien, enfin, puis s'il se trompe, ben
c'est pas grave, clairement, surtout à cet âge-là,
exactement,
jeune,
exactement.
Donc études dans le vin,
oui.
Donc BTS Vitiono, parcours un peu traditionnel, on
classique.
Va dire, pour travailler dans le vin. Et ensuite, donc Ficofi, j'ai noté. Là, c'était quoi? C'était de la vente?
Là, c'était plutôt une entreprise un peu particulière qui avait pour vocation à faire un vrai travail d'éducation autour, surtout pour le milieu de la finance, qui travaillait beaucoup avec le milieu de la finance, par des dégustations, par des cadeaux d'affaires. Et donc, moi, j'étais en charge de l'achat des vins. Donc, ce qui est intéressant quand on achète les vins et quand on a une casquette un peu plus futur vigneron, c'est qu'on va voir les domaines avec une casquette justement un peu plus œnologue que simplement acheteur. Et moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 22, 23 ans, et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'apprendre de tous ces domaines. Et j'ai eu en fait la plus grande chance de travailler avec Sicofi a été de goûter les plus grands vins du monde. D'ailleurs, ça a été, quand on me demande les grandes émotions que j'ai pu avoir en goûtant des vins, c'est à l'occasion d'un dîner Sicofi avec des vins de mon illustre voisin, la Romanée-Conti, où je me retrouvais, à tout compte, un peu l'anecdote rapidement, je me retrouvais tout seul à faire une dégustation, enfin, à ouvrir les bouteilles pour une dégustation des vins de la Romanée-Conti, donc de l'ensemble de la série des vins sur le millésime 91. Donc, je vous parle de ça, on était en 97 ou 98. Et Aubert de Villaine, qui vient me voir en disant t'es seul bourguignon de la salle, tu t'occupes d'ouvrir toutes les bouteilles, tu goûtes tout, tu vois s'il n'y a pas de défaut, ensuite on les servira. Et je me suis retrouvé dans une petite réserve, non, à côté de la salle, à côté de la grande salle, avec une soixantaine de bouteilles de Romanée-Conti devant moi, à ouvrir tout, à tout goûter. Et je m'en suis pris une petite ce jour-là d'ailleurs, et à tout goûter et à avoir des émotions extraordinaires, parce qu'en fait je cherchais pas à voir s'il y avait un goût de bouchon ou pas, je cherchais juste à voir la profondeur des vins, et je me suis retrouvé dans une pièce qui faisait 4 mètres carrés, donc c'était assez étonnant. Et en fait je dis souvent qu'une grande émotion d'un vin, elle se vit souvent à plusieurs, et là je l'ai vécu tout seul dans une sorte de moments suspendus. Et donc en fait Sicofi m'a permis vraiment de goûter les plus grands vins au monde, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Bourgogne, que ce soit dans le Rhône, que ce soit un peu partout dans le monde, même des vins étrangers, et parce que j'ai eu l'occasion de voyager pas mal aussi grâce à eux, et de surtout voir, de rencontrer des personnalités absolument extraordinaires, parce que souvent très avant-gardistes. Et ce qui m'a le plus appris justement pendant ce passage chez Sicofi, c'est pas simplement le métier de vendeur ou d'acheteur ou de présenter les vins, c'est surtout la rencontre avec la possibilité de rencontrer avec la casquette Sicofi, de rencontrer parmi les meilleurs vignerons, et je vous parle de ça au milieu des années 90, donc il n'y avait pas encore toute la starification qu'on a sur les vignerons qu'on connaît aujourd'hui, qui étaient vraiment des gens avant-gardistes et avec lesquels ils avaient une envie d'échanger donner dès qu'il y avait un jeune en face qui avait 15 questions à la minute. Donc et ça a été je dis souvent j'ai pas eu de mentor en tant que tel dans mon métier, j'ai eu quelqu'un qui m'a inspiré, Bertrand, mais la réalité de la construction de mon goût et de ce que j'avais envie de faire, je l'ai eu par la dégustation et par la rencontre de tous ces vignerons qui m'ont beaucoup inspiré.
C'est incroyable. À l'époque, vous saviez déjà que vous vouliez faire du vin ou c'était
J'avais déjà fait mes études, j'avais déjà prévu de récupérer le domaine, ouais, mais rien n'était prêt, mais j'avais 22 ans, donc je me suis dit, c'est beaucoup trop tôt, je vais faire des conneries.
Et en même temps, c'est bien d'avoir cette maturité, de se dire, c'est trop tôt, il faut que je fasse...
Enfin, oui,
c'était... Je pense que moi, ça m'aurait brûlé un peu les doigts de dire, bon allez, j'y vais.
Ouais,
quoi.
Alors c'est pas si simple que ça, parce que quand il y a des vignes, il y a quand même une législation qui va avec, okay. Il y a des baux, on peut pas les casser comme ça du jour au lendemain, et puis à un moment donné, il y a aussi mon père qui m'a dit, je pense que t'es pas encore prêt. Et je pense qu'il a eu raison en disant fais autre chose, va faire tes conneries ailleurs, comme souvent un paternel peut le dire en disant mais fais autre chose, vois autre chose avant de récupérer les vignes, parce que quand tu les auras, tu seras pieds et poings liés avec et tu ne pourras pas faire autre chose d'autre que ça pendant un certain temps. Et il avait raison, c'est-à-dire que il avait un peu cette sagesse de dire c'est bien que tu le fasses, mais fais autre chose quoi, t'enferme pas tout de suite. D'une part parce que t'es pas assez mature pour le faire, et puis va faire un peu tes conneries ailleurs aussi, probablement.
C'est vrai que faire ses premières conneries quelque part, c'est pas une mauvaise idée.
Ouais, clairement. C'est pas pour ça qu'on en fait pas après. Hein. Ouais. Souvent on en fait après aussi. Elles sont peut-être un peu moins grosses, mais ça reste des conneries.
Et donc juste après Wine & Co. Donc la création. Quelle idée de vendre du vin en ligne en 1999?
Ah oui, c'est un peu barré, hein, je suis d'accord.
C'est un truc.
C'est un peu barré. Alors c'est pas une idée qui a germé de ma tête, c'est plutôt une idée qui a germé de la tête de Marc Perrin et que j'ai trouvé assez génial, parce que évidemment c'était le début de l'internet. On était en pleine période des startups, ça fleurissait dans tous les sens. Il y avait une sorte d'euphorie autour de tout ça à un moment. Donc on était tous, on se disait moi aussi je veux en faire partie, je veux faire partie de cette aventure. Et puis finalement on a commencé à comprendre ce que les gens voulaient, c'est-à-dire il y a évidemment ce mot un peu énervant qui s'appelle marketing, mais de comprendre le marché et d'essayer d'apporter autre chose que simplement ce que pourrait apporter un caviste. Donc en fait de faire le même travail que le caviste avec exactement les mêmes conseils, sauf que de pouvoir apporter ce conseil sur non pas 150-20 mais sur 1520. C'était ça l'idée en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire on va proposer plus de vins et on a même commencé à mettre en place quelque chose qui est extrêmement courant aujourd'hui, qui est du marché ciblé. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui s'appelait Broad Vision à l'époque et en fait qui repérait le parcours de chaque internaute et qui permettait de lui faire des offres ciblées. On parle de 99 aujourd'hui, ouais. ça semble logique, c'est standard.
En 99, c'était
assez avant-gardiste et on avait mis ça en place et effectivement grâce à ça, on arrivait à faire des. Alors, on n'était pas du tout rentable et on. Il y a d'ailleurs Bernard Arnault qui avait investi dans la société en février 2000, juste avant le crack du Nasdaq, mais qui croyait en fait à notre projet, effectivement. Donc, c'était et en fait, on a effectivement. Quelquefois, on s'est posé la question parce qu'on faisait des nuits blanches à bosser. Alors on s'est dit, mais on fait ça pourquoi? On n'a pas de rentabilité. Mais au final, c'était une très belle aventure. C'est-à-dire, c'était un peu une aventure une vie d'étudiant tout en bossant comme des fous à essayer de tenir cette boîte-là et d'être sûr que ce projet était viable. Et en fait là j'étais acheteur, moi j'avais ce rôle d'acheteur de vin aussi, et donc dans le même esprit que Ficofi mais avec des volumes beaucoup plus importants et aussi beaucoup plus diversifiés aussi, ouais, exactement. Ouais. Ça m'a permis à nouveau de rencontrer beaucoup de vignerons, beaucoup de producteurs, et puis d'y aller aussi avec la casquette de futur producteur. Qui se précisait encore plus que chez Ficofi, puisque l'échéance était 2001, puisque j'avais déjà programmé l'idée de démarrer le domaine en 2001, tout en pensant que je pourrais à la fois faire un peu Wine & Co et puis le domaine dans les premières années. Il se trouve que on a décidé de vendre Wine & Co à la fin 2001, début 2002 à Moitensi et Millésima. Et donc c'était finalement une bonne échéance, ouais. Parce que juste après, enfin j'ai commencé à m'installer moi en novembre 2001 et Wine & Co a dû être vendu fin janvier début février, donc 2002. Donc ça, les choses tombaient bien, mais en fait Wine & Co m'a permis à la fois ce travail d'entrepreneur, de gestion d'entreprise, de gestion des ressources humaines aussi, c'est important. C'est essentiel et c'est souvent des choses auxquelles on n'est pas du tout préparé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des études de Vitiono et que vous destinez à reprendre un domaine, vous avez aucune idée de comment manager du personnel et savoir quoi leur dire, les salaires, simplement savoir parler aux gens, savoir. Donc ça m'a beaucoup appris en fait dans la gestion et dans une gestion du personnel, peut-être aussi un peu 2.0 d'une certaine manière.
C'est le cas dans beaucoup d'études, je pense aussi. Enfin, moi je l'ai vu. J'ai pas du tout fait Vitiono ou un parcours similaire, mais j'ai pas le souvenir d'avoir appris à gérer des situations humaines de management, d'équilibre, d'animation et tout ça. Enfin, ça s'apprend un peu, soit sur le tas, soit avec du coaching. Ouais. Mais en général, c'est un peu les deux.
Je pense que l'humain ne s'apprend pas, vit et je pense qu'il faut être très très ouvert, très à l'écoute en fait. Mais comme dans tout, c'est-à-dire que je pense que si on peut faire l'analogie entre l'humain et la plante, nous on travaille avec une plante, avec une vigne. Je dis souvent même à toutes les personnes qui travaillent avec moi, je dis faut pas oublier qu'on a deux yeux, deux oreilles et qu'une bouche, c'est bien un signe. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde, qu'on écoute plus qu'on ne parle. Et je pense que c'est ça la clé, c'est d'écouter ce que les personnes ont à vous dire. Et quand on écoute, on comprend. Quand on regarde le sol, quand on regarde la vigne, on comprend. Et c'est l'observation à tout point de vue, de tous nos sens. Et c'est ça qui nous permet à un moment donné d'intégrer de l'information. Et finalement, on est tous suffisamment intelligent pour pouvoir compiler ces informations et se dire, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Et on arrive à, je pense, à une forme de compréhension intuitive des choses. Compréhension intuitive, c'est juste ce qui va nous permettre à un moment donné de dire, je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais parce que je pense que c'est bien de le faire. Et quelquefois, on se plante, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que on pense que c'est si, ce qu'on va faire, on va le faire en pensant que on va faire du bien. Et c'est ça qui est important. C'est pas se dire on va faire quelque chose pour simplement son bien personnel. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être très généreux dans notre métier et pas vouloir toujours se dire je vais faire du vin pour gagner de l'argent, parce que ça, on se plante. Donc je vais employer quelqu'un, il est très bien, et je vais payer au ras des pâquerettes parce que finalement j'ai gagné beaucoup d'argent avec lui. Ça fonctionne pas. Donc et finalement la construction du management, elle est exactement la même que la proximité qu'on peut avoir avec nous, notre manière de travailler nos sols, notre manière d'être agriculteur finalement. On se doit, si on donne à la vie, si on donne au sol, elle nous le rend. Et c'est toujours un échange. C'est jamais unilatéral. Et c'est pareil avec la manière dont on a géré les hommes, la manière dont on a géré notre vigne ou de faire nos vins. C'est jamais unilatéral. Il y a toujours, on donne, on reçoit. Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que je vis ma vie, moi.
Je suis assez, enfin, j'essaye d'être d'accord sur ces points-là, parce que c'est aussi un point que j'essaye de mener. Et en fait, un des éléments que je vois, et je m'approche beaucoup de ce que vous venez de dire, c'est si on fait des choses que pour gagner de l'argent ou que pour, en fait, que pour obtenir quelque chose, que ce soit de l'argent ou autre chose, en fait, de manière unilatérale, ça fonctionne jamais, ou alors ça fonctionne pas longtemps. Et en fait,
c'est jamais sur le long terme.
Exactement. Mmh. Et j'essaie de pas construire des choses pour du court terme, du coup, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à être intuitif, à faire les choses qui sont bien, qui sont, intégralement bien, en fait, qui sont bien pour nous, pour les autres. Alors c'est un peu facile de le dire comme ça, parce qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où il faut essayer de faire le bien au-delà de vouloir juste obtenir quelque chose, quoi. Et je sais plus qui disait ça, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps avec un sportif, je crois que c'était un champion de vélo ou quelque chose comme ça, enfin bref, et il disait si tu cours pour gagner de l'argent, tu gagneras jamais. Mais si tu cours pour gagner la course, à la fin tu gagneras de l'argent sûrement.
Ouais, c'est ça. C'est
donc juste, en fait, si t'aimes ce que tu fais, si t'es dans le, si t'es dedans, s'il y a une énergie, s'il y a un truc, à la fin ça fonctionne.
C'est oui, c'est pas l'appât du gain, en fait. C'est pas un... Et d'ailleurs, s'il y avait que ça, d'une part, effectivement, ça fonctionnerait pas, et puis d'autre part, on se rendrait vite compte que si on fait ce métier que pour ça, et on a, nous, la chance, l'extrême chance, d'être dans un des vignobles effectivement qui fonctionne le mieux. Le marché du vin aujourd'hui est quand même pas extraordinaire, et le marché de la Bourgogne est juste incroyable. Et quand on discute, d'ailleurs, on a tendance à être un peu gêné aujourd'hui quand on en parle, quand on est sur des marchés export et que on est avec plusieurs vignerons de différentes régions ou différents pays qui nous disent tous c'est un peu compliqué machin, et nous on se tait un peu parce que on se doit d'être discret, parce qu'effectivement la Bourgogne fonctionne encore très bien. Pour combien de temps encore? Ça, c'est une vraie question. Faut dire, faut être attentif et ne pas se laisser griser par un succès qui est arrivé très vite et qui pourrait aussi descendre très vite. Donc, il y a tellement d'exemples. Donc, je dis, il faut savoir raison garder aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on ouvrait une bouteille, c'est fait pour être ouvert, c'est fait pour être bu, et on cherche pas à gagner plus d'argent avec une bouteille, on en gagne déjà suffisamment et on a la chance de bien vendre nos vins. C'est pas l'objectif, c'est qu'ils soient bus. Je disais tout à l'heure, la meilleure bouteille, c'est une bouteille vide. Et donc faut faire en sorte que les vins soient bu et soient pas simplement des outils de spéculation, soient surtout pas des outils de spéculation. Et nous, on lutte contre ça au quotidien.
C'est clair. Il y a aussi juste un point pour revenir sur ce que vous disiez avant, parce qu'il y avait en gros faire les choses non pas pour l'argent ou pour le gain de manière générale, mais pour bien faire. Et il y avait aussi le fait d'écouter ou de sentir ou d'observer. Et ça, c'est quelque chose, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, en fait, de dire il faut savoir écouter.
C'est terrible.
Parce qu'on a souvent envie de d'apporter une réponse, en fait. Parfois, quand on écoute quelqu'un, on formule dans sa tête la réponse qu'on va lui faire. Et je pense que ça doit être pareil, d'ailleurs, quand on est dans la vigne, peut-être on y va soit avec une idée préconçue de, je sais pas, hier il a plu, je vais devoir traiter de telle ou telle manière, ou on en est à tel stade de maturité, je vais voir ça. Et donc du coup, on anticipe quelque chose alors que c'est l'inverse de savoir écouter ou de savoir regarder. Mmh. Et alors, je sais pas comment est-ce que vous gérez ça, mais je trouve que...
Je gère pas. Non, moi, j'essaye juste d'être... Je pense que effectivement, notre métier d'agriculteur, de viticulteur, nous permet finalement d'avoir une certaine faculté d'introspection et de se dire que on se doit d'être... d'écouter, et parce que ce que vous dites est assez juste, c'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un et qu'on a envie peut-être d'apporter une réponse et qu'on pense à la réponse avant même qu'on ait posé la question, parce qu'en fait on est sûr que on a déjà la réponse alors qu'on s'attend pas à avoir une autre réponse que celle qu'on voudrait donner, parce qu'on considère quelquefois qu'on détient un peu la vérité. On est tous pareils, hein, c'est pas un défaut plus un autre qu'un, on est tous convaincus de souvent détenir une certaine part de vérité, peut-être pas complètement la vérité. La seule différence, c'est que quand on fait quelque chose, notamment avec la vigne, avec le végétal, avec le sol, c'est qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Déjà, d'une part, ils parlent pas différemment, c'est-à-dire que les réponses, elles viennent souvent après, elles viennent souvent une année plus tard, elles viennent souvent quelquefois 4 années plus tard, et donc on est souvent dans cette attente, c'est-à-dire que je pense que une des notions les plus importantes dans notre métier, c'est la notion de temps, c'est-à-dire de temps long. Ce temps long est quelque chose qui est qu'on peut pas comprimer, qu'on peut pas réduire, même si aujourd'hui dans l'œnologie moderne, dans la viticulture dit entre guillemets moderne, on peut avoir des solutions plus rapides, qui en fait finalement on se rend compte que ces solutions elles sont jamais des bonnes solutions à terme. Donc cette notion de temps long et de réponse lente, parce que cette réponse elle ne viendra que parce qu'on vient la chercher et pas elle viendra pas vers vous. Et en fait, la problématique, c'est souvent quand on pose la question, c'est qu'on s'attend à avoir une réponse toute faite. Et quelquefois, non. Quelquefois, la réponse nous permet d'élargir le champ des possibles, d'élargir notre champ de vision ou notre état d'esprit sur un point particulier, et qui, en fait, nous emmène dans d'autres sphères ou d'autres chapitres qu'on n'avait pas forcément ouvert ou qu'on avait entrouvert. Et on dit, ah oui, j'avais pas été dans cette voie-là. Et c'est pour ça que je pense que notre métier, il y a rien de plus. Je pense que ce que je déteste le plus dans mon métier, c'est le vigneron qui dit, je peux pas te le dire parce que c'est un secret. Je pense que c'est la pire des stupidités qu'on peut avoir dans notre métier. Il n'y a pas de secret. On travaille tous de la même manière. On travaille tous dans le même but, qui est à la fois faire du raisin tous les ans et créer, en fait, un outil, notre vigne, qu'elle soit le plus pérenne possible. Et quand il y a un vigneron qui dit, ah ben non, mais là, je peux pas te le dire parce que c'est mon secret et tout ça. Et très honnêtement, et mea culpa parce que je l'ai fait aussi, parce que nous, on fait nos fûts, on va en forêt, un peu comme les champignons, on a un peu nos endroits. Ah oui, okay. Et je me suis dit, non, je vais pas le dire. Et après, je me suis dit, mais t'es juste un gros con, quoi. Si ça peut aider certains, de s'améliorer, ou parce que j'ai compris quelque chose dans les bois, bah, donne-le. Ce serait trop dommage qu'ils puissent pas le faire. Donc je pense qu'il faut, je pense que cet échange, cette transmission, vous savez, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans notre vie, c'est que notre vie est beaucoup dirigée par l'argent. On parle d'argent avant tout. Et quand on donne de l'argent, on s'appauvrit. Quand on donne de la connaissance, on s'enrichit. Et de donner de la connaissance, c'est finalement de s'enrichir encore plus que si on l'avait gardé pour nous. Et contrairement à donner de l'argent, on dit bah non, je te donne, bah oui, mais je l'ai plus. Tandis que quand je donne de la connaissance, bah je l'ai toujours. Mm-hmm. Et par contre, je l'ai donné à quelqu'un qui va aussi m'en rendre. Parce que quand on le donne, c'est pour aussi penser d'une certaine forme, avec une certaine forme de générosité, que lui va pouvoir probablement s'en servir et avancer dans peut-être dans une petite autre direction, mais qui va permettre de chercher autre chose et qui forcément reviendra. C'est cyclique. Et c'est comme ça que je vis ma vie, moi. Comme ça que je vis ma vie de vigneron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cheminement, c'est une quête, clairement, où on sait très bien qu'une vie sera pas suffisante pour tout comprendre, mais c'est pas grave. C'est pas une frustration, au contraire. C'est constamment une recherche, une aventure, et chaque petite étape nous dit, ah ouais, j'ai compris un truc que j'ai mis 15 ans à comprendre. J'ai compris des vins que j'ai mis 18 ans à comprendre. Je pense au Clos Vougeot où je les ai fait tellement différemment en 2018, où je me suis dit, arrête de t'arrêter sur des points bien précis, va un peu plus loin que ce que tu imaginais parce que j'avais peur d'avoir ça. Et le problème, c'est qu'on fait une vinification par an, et si on se loupe, ben on paye pendant des années. Donc de pas avoir peur de se planter aussi, hein. C'est se dire à partir du moment où on le fait, c'est comme la biodynamie. Je dérape un peu, mais la biodynamie, il y a beaucoup de gens qui me disent quand je l'ai démarré en 2004, j'étais certifié, j'ai arrêté la certification après, je pourrais vous en parler pourquoi. Il y a beaucoup de gens quand j'ai démarré, je faisais ma petite bouille et j'étais tout seul dans mes vignes en train d'apporter mes préparations et un vigneron est venu me voir et me dit mais tu fais quoi, tu joues avec le soleil? Et je dis non, je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai pas l'impression de faire du mal, et en tout cas si je fais pas de bien, je fais surtout pas de mal. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, que ce soit pour la vigne mais aussi pour les hommes. Donc c'est se dire que on essaye, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais on aura essayé. C'est un peu ce qui m'anime, moi.
Oui, et puis le fait de pas faire de mal, généralement, c'est déjà mieux que pas mal de personnes, donc ça met déjà un cran au-dessus, et puis si en plus de ça, ça fait du bien, c'est clair. On va revenir du coup sur 2001, fin 2001 à l'arrivée ici, mais juste avant, il y a un point où vous avez mentionné qui m'a fait penser à un autre podcast que j'ai écouté hier. J'en écoute pas mal en ce moment.
Ouais.
Et c'était assez fun. C'était avec un ultra-marathonien cette fois-ci, donc pas un cycliste. Et en gros, j'ai des références très sportives en ce moment. Donc, bref. Et en gros, il disait, c'est un mec qui est un peu un fou furieux, qui court des trucs, de plusieurs centaines de kilomètres, etc.
Ouais, c'est pas pour moi, ça.
Ouais. Pour moi non plus. Clairement, c'est vraiment.
Vous êtes un peu plus physique sportif que moi. Moi, c'est dessiné, hein.
Bon, c'est gentil, il y a d'autres personnes dans ce podcast qui ont dit l'inverse, donc je leur rends la monnaie de leur pièce ici. Et en fait, il parlait de sujets qui étaient assez profonds et tout, et en gros, il disait « Je suis reconnaissant que tu m'emmènes pas sur le sujet de est-ce que je fais des saunas, est-ce que je prends des compléments alimentaires, est-ce que je mange ci ou ça ?» Parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est je me lève tous les jours à 3h du matin pour aller courir 50 km juste avant le début de ma journée, et que après je fais du vélo, et après je refais de la course à pied, et ainsi de suite tous les jours, quoi. Bon, ce mec est un peu malade, et en fait ce que je voulais dire, c'est qu'il confondait
passionné.
Ouais, en fait il confondait enfin beaucoup de personnes, mais moi y compris, tendent à confondre le travail en tant que tel de tout ce qui l'entoure, et que en fait utiliser précisément tel ou tel bois, en fait ça fait peut-être partie du 1% qui va certes transformer quelque chose et qui l'emmène dans une autre dimension, mais en fait avant ça, il faut se lever tous les jours, il faut vérifier la vigne, il faut
passer
une cave, il faut travailler, et en fait avoir ce bois là ou pas, franchement, ça change rien si déjà tout le reste est pas fait, quoi.
Exactement. Non, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, notre métier, c'est une somme de petites choses qui permet d'aboutir à quelquefois un résultat. Et il y a effectivement des. Je disais il y a pas très longtemps, il y a des toutes petites choses, enfin des choses qui demandent pas beaucoup d'énergie et qui vont changer radicalement un vin, et des petites choses qui est fait chaque année. Qui ne va pas forcément le commun des mortels qui va goûter un vin va évidemment pas le sentir, mais nous on va le sentir et on va voir une évolution dans nos vins sur 10, 15, 20 ans, notamment sur la partie vigne. Sur la partie vigne, c'est le temps long, encore j'en parlais, et donc c'est effectivement, et si la base elle est pas bonne au début, et si on n'a pas pris les choses à la base, ben ça sert à rien de mettre un joli fût s'il y a pas un vin qui permet de supporter ce joli fût. Donc c'est oui, effectivement, c'est un cheminement et c'est des étapes. Et ces étapes, elles ne peuvent pas, on peut pas en louper une. On doit les suivre.
On peut pas le faire dans l'ordre inverse, en tout cas.
On peut pas le faire dans l'ordre inverse. Et je parlais de la biodynamie tout à l'heure. C'est souvent, beaucoup de gens qui y sont allés, probablement un peu par effet de mode, et qui se sont lancés là-dedans un peu corps et âme en disant c'est génial, c'est l'avenir et tout ça. Peut-être d'une manière convaincue, peut-être un peu moins convaincue pour des raisons un peu commerciales, certains probablement. Je qui suis pour juger, mais j'ai rencontré du monde où je me suis dit tiens, effectivement, on sent qu'il n'y a pas forcément une sensibilité ou une volonté de vouloir bien faire les choses, mais plutôt de se gargariser comme quoi ils les faisaient. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, c'est le sujet qu'on retrouve malheureusement souvent un peu, mais pas forcément que dans notre métier. Et donc c'est de se dire c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui arrivent, qui nous permet d'arriver à un résultat à partir du moment où effectivement il y a cette volonté, cette envie de vouloir bien faire les choses dès le début. Et donc il faut partir à la base. Et je dis souvent, moi quand j'ai repris le domaine en 2001, j'ai retrouvé des vignes qui étaient en mauvais état, des sols gris, des sols qui étaient amaigris, des sols compacts. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai là? Et donc forcément, j'ai décidé dès le premier millésime. Alors je dis forcément, c'est pas forcément une évidence, mais dès le premier millésime, j'ai décidé de basculer tout le domaine en culture biologique dès 2002. Donc puisque j'ai repris le domaine en novembre 2001 en me disant, posant pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que je vais le mettre sur les bouteilles, ou il y a jamais sur la bouteille marqué culture biologique, je veux pas le mettre, et pourtant on est certifié, et ça depuis une vingtaine d'années maintenant, c'était juste la volonté de dire, je pense que c'est le seul moyen que j'ai rapidement pour faire en sorte de retrouver de la vie dans mes sols. Et ça, je l'ai pas appris, je l'ai entendu. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés dans mes 4 ans qui ont précédé la reprise du domaine, dans mes 2 autres métiers, en tout cas mes deux autres fonctions, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'expliquaient tout ça, qui m'expliquaient ce qu'ils avaient vécu, des gens qui étaient vraiment des précurseurs de la culture biologique en France, à l'étranger, en Bourgogne. Et je me suis dit, enfin, il n'y a pas d'autre voie à suivre que celle-là. C'est clairement celle-là et c'est rien d'autre. Et donc c'est pour ça que je suis allé un peu bille en tête là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas qu'on s'occupe de la plante. La plante n'avait pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'elle sait se nourrir, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait ce qu'il lui faut pour survivre. Et ce dont on doit s'occuper, nous, en tant qu'agriculteurs, donc cultiver le sol. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question des besoins du sol et pas des besoins de la plante. Et pendant les 40 dernières années, on s'est posé la question du besoin de la plante en disant de quoi la plante a-t-elle besoin, et donc on va donner au sol ce dont la plante a besoin sans se soucier vraiment du besoin du sol. Comme si on considérait le sol comme une sorte de grand élément de stockage, une sorte de grand bâtiment, et vas-y qu'on lui donne, qu'on donne ce dont la plante, en étant sûr que la plante a besoin juste d'azote, de phosphore ou de potassium, ce qui était une aberration les plus totales. Et il y a encore, ça existe encore, mais de moins en moins, heureusement. Et en fait, je me suis dit, mais le sol, c'est comme une usine. Le sol, il a besoin d'une matière première pour transformer dans une matière finie, disponible ou pas à la plante et à la culture. Et en fait, la plante va faire naturellement une sorte de communication, si on peut appeler ça une communication. Probablement, il y en a une, on la connaît pas encore. Vous savez qu'on sait simplement, on connaît simplement de ce qu'on peut dire aujourd'hui 15% de ce qui se passe dans un sol. 15%, c'est infinitésimal par rapport à tout ce qui peut se passer dans un sol. Donc en fait, finalement, il faut bien qu'on fasse appel à notre intuition, puisque les 15% scientifiques, de connaissances scientifiques, nous permet de toucher à peine du doigt quelque chose qui est finalement beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et donc moi, je me suis dit, mais il faut que je m'applique au sol. Finalement, la plante, elle se porte pas très bien, mais c'est pas la plante. La cause, c'est son substrat. C'est là où elle est. Pourquoi la même plante se porte bien là et se porte pas bien là? Et donc, j'ai essayé, en fait, de comprendre, de faire des essais, d'appliquer des composts, d'appliquer des tisanes, d'appliquer, de faire des labours un peu différents. Je me suis fait prendre par l'herbe. Je me suis fait insulter par d'autres vignerons à qui j'avais repris des vignes, qui m'ont dit que je méritais pas d'avoir ces vignes-là. Enfin, je passais par des tas d'étapes qui était plus ou moins agréable, ouais, mais qui m'ont forgé un peu dans ma conviction de ce que je faisais était probablement une voie qui est, si c'est pas la bonne, c'est celle que j'ai envie de suivre, et si c'est la bonne, ben tant mieux, je suis content de l'avoir suivi. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai créé ça, je me dis, il y a eu des vérités, enfin, il y a eu des choses qui étaient justes, des choses qui étaient moins justes, et surtout, je continue à apprendre, quoi. J'arrête jamais. Et la manière dont je fais mes vins aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, est totalement différente, et tant mieux, parce que c'est quel bonheur, quoi.
Mais ça devait être dur, du coup, en 2001, 2002, de commencer à porter ses convictions,
C'était pas des convictions. J'étais ouais. Absolument pas convaincu.
Des intuitions, ouais.
C'était juste en me disant, ouais. C'est ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai entendu ou écouté de par des personnes qui, pour moi, étaient des personnes qui comptaient, en tout cas dans ce que j'avais goûté. Parce que c'est pareil, on peut écouter pendant 2 heures une personne et on goûte les vins plaisent pas. Est-ce qu'on revoit le discours? En tout cas, est-ce que la manière dont la personne a parlé est cohérente par rapport au vin qu'on a goûté? Et quand les deux fonctionnent, ouais, c'est génial, parce qu'on se dit, ouais, là, il m'a parlé de ça, et puis là, dans les vins, il y a quelque chose. Et là, tu dis, ah ouais, il y a quelque chose qui fonctionne. Et malheureusement, la plupart du temps, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un joli discours, et derrière, dans les vins, c'était hyper technique, hyper travaillé, avec des tas d'artifices. On se disait, ouais, non, il y a le discours pseudo-agricole, et après, il y a un œnologue derrière qui a fait les vins et qui a pas respecté l'identité d'un lieu.
Bon, alors, achetez-vous une bouteille, mettez sur pause, allez chez le bon caviste que vous pouvez avoir, achetez-vous une bouteille de Thibault Ligier-Belair, essayez de trouver une bouteille, et puis une fois que c'est fait, vous revenez, vous remettez sur play, comme ça on verra si c'est cohérent. Donc on a parlé de l'arrivée en 2001, donc reprise des vignes qui étaient existantes, changement du mode de culture, préoccupation sur la terre. Vous avez aussi parlé d'achat de vignes à proximité.
Oui, j'ai acheté des Bourgognes, j'ai acheté des Hautes-Côtes, j'ai acheté un peu de vignes sur Nuits-Saint-Georges, des Nuits-Saint-Georges Village, la Charmotte. Et alors pour une simple et bonne raison, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est important. J'ai la chance d'avoir des premiers crus, des grands crus, mais il y avait quand même cette volonté de pouvoir faire aussi des entrées de gamme. Je pense que l'entrée de gamme, c'est, je pense, être le vin le plus important du domaine. Moi, souvent, quand je fais goûter mon Bourgogne, je veux avoir de la fierté à faire goûter mon Bourgogne, parce que je veux que ce Bourgogne soit déjà, c'est le vin de tous les jours pour moi, et je veux que faire en sorte que tout le travail qu'on fait sur un grand cru soit le même sur un vin d'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, les vignes sont... Je me suis posé simplement la question, mais est-ce que les vignes sont différentes? Non, les vignes sont pas différentes. Les sols sont différents, donnent des vins moins complexes, donnent moins des vins de garde, moins des vins de longue garde, moins de profondeur, clairement. Mais par contre, la vigne, elle doit avoir exactement le même traitement, le sol, il doit avoir la même attention. Et donc j'ai décidé de faire exactement la même chose sur un Bourgogne que sur un grand cru. Et donc aussi quand on fait des expérimentations, parce que moi je suis toujours en train de tester 40 000 choses, je me suis dit c'est peut-être pas idiot de faire des tests sur un Bourgogne plutôt que sur un grand cru. Donc il y avait aussi aussi un peu cette stratégie qui était de dire on va aller faire nos bêtises sur un vin qui est peut-être parce qu'il y a la viabilité financière de l'entreprise. Quand on démarre, on investit beaucoup. Vous savez, quand on démarre un domaine, on investit en fait pendant 2 ans, on dépense beaucoup d'argent sans avoir rien qui rentre, puisque on taille la première vigne, on la mène jusqu'à la vendange, on la récolte, on paye les vendangeurs, on paye les vinifications, on paye les fûts. Et puis on redémarre une autre récolte, une autre année, ou rebelote, et on commence à vendre. Le résultat du premier coup de taille, qui était en novembre 2001, en novembre 2024, 3 ans. Donc entre le moment où on a taillé le premier cep et on a eu le résultat financier de la vente de cette récolte. Donc pendant 3 ans, fallait un peu tenir aussi. Et ça, c'est aussi un peu la problématique quand on crée des domaines. Mais j'avais la chance d'avoir des belles appellations et puis surtout d'avoir fait autre chose avant et d'avoir vendu un site internet qui m'a permis de tenir quelques années. Bien sûr.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu. Enfin, l'a vu plusieurs fois et c'est un décalage de trésorerie qui a l'air assez solide. Enfin, dans les cas d'études qu'on peut lire ou dans les discussions qu'on peut avoir, ça a l'air assez tendu de gérer ça. Ça nous amène, c'est une transition qui est assez parfaite, je trouve, vers le domaine des jeunes pousses.
Justement. Ok, bien sûr.
Même si on reviendra sur la suite de l'aventure ici, mais je trouve que là, ça se fait bien. Et donc, avec Yvan Massona, vous avez créé ensemble ce domaine.
Oui. Alors c'est un projet la naissance, la jeunesse de ce projet, c'est moi je me suis installé dans le Beaujolais parce que 2008 j'ai décidé de créer un domaine à Moulins à Vent parce que j'ai fini mes études à Moulins à Vent et en fait tous les matins j'ouvrais mes volets, je louais une maison à Morgon et j'ouvrais mes volets sur la beauté de ce paysage du Beaujolais et je me suis dit mais comment ça se fait que le paysage soit si beau et les vins si médiocres. On était dans les années milieu des années 90 et donc le Beaujolais était pas quand même à son meilleur à son max en termes de qualité. Clair, ouais. Et il y avait ce décalage et en fait je crois à ça quand j'achète des vignes, c'est-à-dire que si le lieu est beau, les vins sont rarement mauvais. Et donc le lieu du Beaujolais, enfin les collines du Beaujolais, c'est vraiment magnifique. C'est beaucoup plus beau que la Bourgogne. La Bourgogne est belle, mais le Beaujolais est somptueux. Et donc j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête le fait d'aller m'installer dans le Beaujolais. Et donc en 2008, j'ai décidé de poser mes valises à Moulins à Vent, d'acheter 3 hectares. Aujourd'hui, c'est un domaine qui en fait 12. Et en 2015. J'ai eu l'occasion de racheter un domaine de 10 hectares avec pas mal de vignes sur Moulins à Vent, extrêmement belles, de très belle qualité. Et dans le panier de la mariée, il y avait aussi 5 hectares et demi de Beaujolais Village et de Chénat. Et moi, mon objectif, quand j'ai créé le domaine à Moulins à Vent, était de rester que sur Moulins à Vent. Je cherchais pas à aller ailleurs. Donc, je me suis dit, bon, Chénat, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai pas envie de faire de Beaujolais Village. Pas tout de suite, ou en tout cas, c'était pas mon objectif. Et puis, mon marché n'était pas prêt à ça. Donc, quand même, en 2008, on parlait pas beaucoup du Beaujolais. Hein. Quand j'ai créé ça, et les vignerons ici, les copains, m'ont dit « Thibaut, t'es fou, quoi ». Dans le Beaujolais, comme si c'était un truc horrible, quand c'était le bagne. Mais ces vignes étaient tellement belles à Moulins à Vent que je me suis dit « je vais acheter l'ensemble ». Et puis, je vais faire quelque chose avec ces 5 hectares de Beaujolais Village et de Chénat. Et c'est là où j'en ai parlé justement à Yvan, puisque Yvan, dans les 5 hectares de vignes en Moulins à Vent, c'est là où je lui ai proposé en disant, il y a une vigne, si ça t'intéresse, c'est un très beau terroir, c'est le terroir des Champs de Cour, et qui est pour moi l'un des meilleurs vins de la production à Moulins à Vent. Et je lui dis, si ça t'intéresse, si tu veux venir... devenir associé, viens acheter cette vigne-là et puis on va mieux s'amuser ensemble. Et puis il y avait ces 5 hectares et je lui ai dit, tiens, il y avait ces 5 hectares-là, j'ai peut-être un projet. Et en fait, la genèse des domaines des jeunes pousses, c'est que chaque année, moi, je reçois beaucoup de stagiaires. J'aime bien former, j'aime bien avoir des gens qui viennent, qui soient pas forcément des étudiants, qui soient des gens qui viennent de France, mais aussi d'ailleurs. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, j'avais des jeunes avec un peu la même étincelle que j'avais moi au début. Alors je l'ai toujours, j'étais peut-être encore un peu plus excité à l'époque quand on démarre. Et je me dis, ces jeunes-là, ils ont cette volonté de vouloir faire quelque chose, mais ils ont pas la chance que moi j'ai eue d'avoir des vignes familiales et d'avoir pu exprimer ma passion grâce aux vignes familiales. Et je me dis, c'est quand même dommage que ces jeunes, on ne puisse pas leur donner un outil. Et donc, je les proposais à Yvan. Je leur ai dit, voilà le domaine, j'ai pensé à un nom, domaine des jeunes pousses, qu'est-ce que t'en penses? Et lui, Yvan, en général, prend les décisions très rapidement. Et il a dit, ouais, c'est génial, on fait. Et ça s'est fait autour d'un verre, autour d'un déjeuner, en disant, qu'est-ce que t'en penses? Probablement en cave, comme il y a beaucoup de choses qui se fait quelquefois en cave autour d'un verre. Et donc, le projet est né. Alors, au début, c'était 5 hectares qu'on a tout basculé en culture biologique parce que c'était vraiment une volonté. Donc, en fait, mon équipe de Moulins à Vent a travaillé ces 5 hectares en plus des vignes du domaine pendant de 2015 à 2019. Et on a commencé à donner ces vignes pour le premier millésime, justement à la récolte 2019. Et ce qui nous manquait, en fait, on avait les vignes, mais il nous manquait un lieu. Parce que l'idée, c'était de faire une pépinière. Vraiment, de mettre le pied à l'étrier de jeunes vignerons. Et à la fois d'avoir des vignes en culture biologique, mais déjà certifiées. C'est-à-dire qu'ils puissent utiliser la certification émettre la certification agrobiologie sur l'étiquette, qui puisse avoir un lieu de vie, un lieu d'unification et aussi un lieu de, enfin, un des outils, l'outil de travail, le tracteur, tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, il nous fallait tous ces aimants-là. Et donc, forcément, les vignes, on les a trouvés, mais il nous manquait le lieu. Et je voulais un lieu local. Je voulais être vraiment sur le village où il y a les vignes. C'est le village d'Emringes, qui est un lieu magnifique. On a l'impression que c'est une petite Toscane. Et donc, on a trouvé ce lieu en 2019. Et c'est pour ça que dès qu'on a eu trouvé ce lieu, j'avais en tête une personne que j'avais rencontrée, qui était Angela, qui travaillait aux hospices de Beaune, enfin, qui était stagiaire, qui sortait, en fait, de DNO. Et en fait, quand elle est venue, elle m'a demandé un stage, et elle est venue pendant les vinifications de 2018. Et je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses? Et il n'y a pas eu de réponse. Et très honnêtement, ça m'a un peu surpris, aussi un peu déçu. Je me dis, pourquoi elle ne me donne pas de réponse? C'est quand même incroyable. Et donc, elle a réfléchi, elle est revenue vers moi, elle me dit, mais voilà, pourquoi vous faites ce projet? Enfin, expliquez-moi un peu plus, c'est quand même bizarre, c'est pas normal. Et je lui dis, mais non, il y a rien de bizarre. Je te donne 5 hectares, t'as un lieu pour habiter, tu deviens co-gérante avec moi, t'as une cuverie, on va faire les travaux, on va faire alors là-bas, on appelle ça un cuvage, c'est pas une cuverie, c'est important. Et on va faire ce projet. On va faire ce projet ensemble et elle me dit, je lui dis, voilà, je vois bien que je pense que c'est un projet qui mérite d'avoir une personne. Elle me dit, ben, on est deux. J'ai Hugo qui travaillait à l'époque en tant que stagiaire au domaine de la Romane et Conti. Et je lui dis, ben, ok, entre deux, c'est bien, un couple, c'est ok, super. Et en fait, elle m'a expliqué après qu'elle avait beaucoup hésité parce qu'elle trouvait la mariée trop belle. C'est pas normal. Il y a un vigneron qui arrive, qui donne 5 hectares de vigne avec un lieu pour habiter, une cuverie, un tracteur.
Attends, un peu l'impression d'un vigneur
loto. En disant, ouais, mais enfin, et la seule chose qu'on demandait, c'est de travailler et que moi je sois derrière pour les aider, pour les former sur le tracteur, pour être là pendant les vinifs. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on va leur donner ça pendant 3 ans, 3 millésimes, ils vont faire leurs armes. Leurs bêtises, ils vont trouver leur style aussi. Ils vont évidemment s'occuper de la partie viticole, de la partie œnologie, mais également de la partie commercialisation, qui est quand même pas une mince affaire. On n'a pas tous des commerciaux, mais même des profils de vendeurs. Ouais, ouais. Donc quelquefois, il y a des gens qui adorent être dans leur vigne, mais dès qu'il s'agit de recevoir du monde,
ça prend du temps, sinon, de
et,
tout le, faire,
et puis c'est hyper chronophage, ouais. Effectivement. Et je pense que effectivement que ce soit un couple. D'ailleurs, maintenant, c'est aussi un couple de deux jeunes femmes qui se sont rencontrées dans des études parallèles et qui il y en a une qui lui a proposé de devenir son apprentie et qui finalement maintenant est associée. C'est intéressant. Donc et qui avait vraiment pour objectif de pouvoir se dire, vous faites tout de A jusqu'à Z, vous créez votre propre étiquette et surtout vous faites votre clientèle, et quand vous avez fait votre clientèle, au bout des 3 ans, vous partez, vous créez votre domaine avec ce que vous avez gagné sur le domaine. Ça vous fait un petit compte courant, ça vous permet de créer votre domaine. Et donc Angela et Hugo ont créé leur propre domaine qui s'appelle Obora, qui fonctionne bien d'ailleurs, qui ont eu les honneurs de pas mal de belles critiques de vin et de critiques gastronomiques. Récemment sur France Inter, il y a eu une très belle mise en avant par on va déguster avec François Régis Gaudry. Donc vraiment des belles mises en avant et qui aujourd'hui sont lancés, et donc la deuxième génération. Et l'idée, c'est tous les 3 ans d'avoir la première génération, la deuxième génération, on en est à la deuxième, et la troisième génération qui arrivera derrière, qui va suivre, qui va continuer à être les générations de jeunes pousses. C'est aussi un projet qu'on aimerait bien répéter, mais bon, ça demande du temps. Moi, je me donne beaucoup à ce projet parce que je veux aussi les aider. Je veux être là quand elles ont besoin. Mais je manque de temps. Les journées ne font que 24 heures. Donc voilà. Mais c'est un projet qui est encore une fois, parce que on ne fait pas que donner. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi beaucoup. Il y a des choses. Il y a une envie d'une jeune génération. La deuxième, Thaïs et Juliette, elles ont 26 et 28 ans. Donc elles sont jeunes et donc les envies ou leur goût est différent du mien qui approche la cinquantaine, donc forcément on n'a pas les mêmes attentes
et donc
Puis c'est super intéressant, mais je me dis bah tiens, moi je verrais bien aller dans ce sens-là. Elle me dit moi nous c'est pas tout à fait notre, on aimerait bien aller dans ce sens-là. Je dis ok, pourquoi? Et c'est une discussion hyper ouverte et j'essaie de comprendre pourquoi elles veulent aller dans ce sens, non pas qu'elles ont raison ou qu'elles ont tort, c'est juste leur point de vue qui est hyper intéressant parce que c'est un point de vue plus générationnel. Mmh. Et donc voilà, et donc ce projet a du sens, il est en train de faire des petits, c'est assez intéressant, de part de d'autres vignerons, parce qu'on a dû mettre en place une co-gestion un peu particulière qui n'existait pas avant. Avec un notaire, on a réussi à trouver des textes de loi, et surtout ce qui était extrêmement important, c'est que chaque vigneron, puisque quand on s'installe en tant que jeune vigneron, on a droit à des aides, les aides jeunes agriculteurs, et si elle devenait si il ou elle devenait co-exploitant, tels qu'ils le sont, ils perdaient le fait qu'ils soient primo-exploitants, et donc ils perdaient les aides aux jeunes agriculteurs, les prêts bonifiés, et ça pour moi c'était hors de question, il fallait qu'ils puissent avoir la possibilité de prétendre à ça, et pour pouvoir créer leur domaine après, puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir créer leur domaine, et moi j'aimerais bien qu'elles créent, que ces jeunes restent dans le Beaujolais, parce que aussi le Beaujolais a besoin qu'on mette un petit peu l'accent sur cette région, qu'on fasse le focus, parce que c'est une région passionnante, et puis a besoin d'un renouveau chez les vignerons aussi.
Bon, le message est passé, en tout cas, si vous êtes vigneron et que vous souhaitez dupliquer cette initiative de jeunes pousses, le modèle est stable et n'a plus qu'à prendre son envol.
Stable, mais pas rentable.
Bon, bah alors, le message est passé, soyez prudent quand même.
Non, il est pas rentable. Et il devrait l'être, mais il est pas rentable pour le moment. Mais c'était pas l'objectif. Non,
c'est plus une vision de un peu de business angel qu'on pourrait avoir sur d'autres.
Ouais, sans avoir aucune volonté de gagner quelque chose dessus. Mis à part de former des jeunes et d'avoir, nous, ce qu'on gagne dessus, c'est juste entre Yvan et moi, c'est simplement le fait d'avoir eu la volonté de faire quelque chose pour les jeunes, et ça c'est déjà énorme.
Et puis de contribuer tous les 3 ans, avoir une nouvelle aventure, avoir ce cycle, c'est passionnant. Et effectivement, pour revenir sur le Beaujolais, donc vous achetez en Beaujolais en 2008, ça. Et donc bah voilà, vous venez de le dire, c'est encore une terre pleine d'opportunités dans lequel il se passe beaucoup de choses. Moi j'ai un peu cette vision là du Beaujolais, en fait. J'ai la vision d'une région magnifique, très qualitative, mais sous-exploitée, en fait, alors qu'elle...
Vous croyez vraiment en disant très qualitatif?
Ouais, vraiment. Ouais, ok. Vraiment.
C'est intéressant, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on décrirait en parlant du Beaujolais.
Bah.
Il faut pas me flatter, hein.
Non, c'est pas mon genre. Mais je pense qu'il y a...
C'est vrai? Ouais. C'est pas sympa.
Je pense qu'il y a... Je plaisante. Il y a quelques années, je pense que j'aurais pas dit ça. Je pense que j'avais plutôt l'image du truc.
Il y a combien de temps vous auriez pas dit ça? Ça m'intéresse, en fait. Je suis pas l'intervieweur, hein. Je suis désolé.
Ouais, mais... Non, mais on peut inverser, pas de problème. Je pense qu'il y a, il y a 3-4 ans.
Ouais,
je pense
récent.
Je pense que j'aurais...
C'est hyper récent.
J'aurais plutôt dit, ouais, on amène un Beaujolais, devant un match ou pour le plaisir, quoi. Mais voilà. Versus aujourd'hui où au restaurant, dans un bar à vin, ou même quand on fait un dîner chez nous, ça fait clairement partie des régions que je considère, et je suis toujours même content quand on m'amène une bonne bouteille de Beaujolais, je me dis ah bah
ouais.
Sympa, quoi.
Ouais, parce que je pense qu'effectivement le Beaujolais, on en attend pas autant que le Beaujolais capacité de donner. Et moi, enfin, aujourd'hui, on peut parler évidemment de réseaux sociaux qui sont très importants, mais souvent, moi, les bouteilles qui sont taguées domaine sont à 50% des bouteilles de mon domaine du Beaujolais, plus que des bouteilles de la Bourgogne. Alors, j'espère que les bouteilles de la Bourgogne me plaisent quand même. Mais non, je pense qu'en fait, les bouteilles sont mis en avant parce que les gens sont probablement surpris par ce qu'ils vont goûter et qui peut-être pas forcément l'archétype de ce qu'on pourrait penser trouver dans une bouteille de moulin à vent.
C'est clair. Et ça fait aussi partie des vins qui sont ultra accessibles pour la plupart, ou en tout cas qui restent à un niveau d'accessibilité qui est vraiment
avec une très jolie qualité,
sans problème, quoi.
Avec une très jolie qualité et effectivement accessible aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est aussi une génération peut-être un peu plus jeune qui est peut-être plus curieuse que la génération de nos parents, que la génération 50, 60, peut-être plutôt soixantenaire aujourd'hui, qui est encore un peu avec des idées
un peu
arrêtées sur mais encore une fois, on veut pas leur en vouloir parce que quand ils ont commencé à goûter des vins du Beaujolais il y a quelques années, c'était quand même pas c'était pas forcément la définition de vin de terroir et de vin identitaire. Donc mis à part chez certains grands noms qui sont aujourd'hui toujours ceux dont on parle et qui avaient une vision très différente, et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on pense à des foyards ou à des Lapierre et choses comme ça, on connaît plus Lapierre ou foyard que finalement les vins qu'ils font.
C'est vrai.
Et quelquefois, ça m'est arrivé de poser la question à des gens en disant « Lapierre, mais qu'est-ce que vous aimez ?»« J'aime bien la cuvée untel. » J'ai dit « C'est du Morgon, donc c'est du Beaujolais. » « C'est du Beaujolais, Lapierre ?» J'ai dit « Ben oui, c'est du Beaujolais, oui. »« Ah, mais c'est bon pour du Beaujolais. » Voilà, ça, c'était la réponse. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui se disent mais c'est bon pour du Beaujolais. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir, enfin, de faire sortir de l'esprit des gens en disant moi, je produis pas du Beaujolais, je produis du moulin à vent. Et, avec un modèle plutôt bourguignon, avec l'idée de mettre en avant des terroirs. Et si j'ai voulu rester uniquement sur moulin à vent, c'était également pour pouvoir, essayer de découvrir et d'explorer un peu ce terroir en faisant un modèle bourguignon, puisqu'on fait 6 vins différents de 6 lieux différents qui permet d'explorer un peu la diversité de ces terroirs. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'avant avant tout, évidemment, on est là pour faire du vin et le vendre, mais avant tout pour s'éclater, à se dire, on fait des choses différentes et c'est ça qui est amusant.
Ouais, puis de partir à la découverte de ces terroirs, je pense que c'est beaucoup moins bien délimité que ce qu'il peut y avoir en Bourgogne.
C'est pas moins bien délimité, c'est moins hiérarchisé.
Ouais, ok.
C'est-à-dire que, mais la délimitation, elle existe, elle a toujours existé. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, alors on n'a pas forcément les moines cisterciens qui ont fait le travail qu'ils ont fait ici, mais c'est surtout que, en fait, le Beaujolais a pris une autre direction, notamment après la crise de 1929, où la Bourgogne a décidé d'hiérarchiser avec les villages premier cru et grand cru en 1936 et premier cru en 44. Et en Beaujolais, ils se sont dit on va faire 10 crus du Beaujolais. Et ils ont fait entre début des années 30, enfin fin des années 30 et des années 80, fin des années 80, même début 90, ils ont créé 10 crus dans le Beaujolais sans se soucier de se dire qu'il y a des terroirs meilleurs que d'autres. Et en fait, c'est une vraie anomalie, et l'anomalie est en train d'être réparée d'une certaine manière, puisqu'il y a, un dossier qui dure depuis maintenant 7 ou 8 ans, qui est de faire des premiers crus sur les de faire des premiers crus ou des têtes de cuvée, c'est pas encore décidé, mais en tout cas de mettre en avant les meilleurs terroirs sur Moulin à Vent, sur Fleury, sur Morgon, en tout cas des les terroirs que tout le monde connaît comme étant des terroirs, ce qu'on appelle des hauts lieux, et de pouvoir leur donner une hiérarchie différente que celle qui existe aujourd'hui, donc qui n'existe pas aujourd'hui.
Ouais, qui existe un peu de facto par le marché, par le consommateur,
par le prix qu'on en met, et donc ils se disent, et puis par les connaisseurs.
Ouais, mais bon, qu'il y a toujours un risque pour une personne qui s'y connaît un petit peu moins ou qui a pas cette vision-là, de se dire, est-ce que je mets 50-60 euros dans une bouteille de Beaujolais alors qu'il n'y a pas cette classification et tout ça, enfin, il y a une visibilité. Tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu de valorisation des terres bourguignonnes, et vous avez dit que c'était
sujet sensible,
un sujet forcément sensible, mais sûrement un petit peu problématique. Alors moi, je pensais pas que ça s'était passé aussi vite, du coup, parce que vous avez dit que c'était un peu au cours des dernières années que ça avait complètement évolué. Comment est-ce qu'on fait quand c'est un peu une question bête, ce que je veux dire, mais ouais, il y a pas de question bête.
Il y a pas de question bête, hein. La question bête, c'est celle qui est jamais posée.
C'est vrai. Bah, c'est gentil de la dédiaboliser en avance.
Attendez, j'ai pas encore la question.
Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre la tête quand le prix de la terre s'envole autant? Comment est-ce qu'on fait en fait pour se dire je garde mes hectares, je continue mon travail.
Ça dépend la vie qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut juste mourir riche ou on veut mourir avec des connaissances et avoir le sentiment de devoir accompli? En fait, la réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est facile à dire quand on a la chance comme moi d'avoir eu des belles vignes et puis de vivre confortablement. On vit confortablement en Bourgogne quand même, on vit notre travail confortablement, on fait en sorte que nos collaborateurs vivent confortablement aussi. Donc on a cette chance là. Après
mais est-ce que c'est pas aussi de un pas peu frustrant dire... parfois ?
Pardon ?
Est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois de pas pouvoir étendre le domaine comme vous l'avez fait à une époque?
Alors,
ou aller
oui,
chercher des
c'est la plus grosse frustration. C'est-à-dire que la plus grosse frustration, elle est plutôt enfin la plus grosse crainte, pas de frustration, c'est de se dire est-ce que je vais pouvoir conserver mon domaine tel que je l'ai, sachant que les prix sont tels que je suis pas sûr de pouvoir à un moment donné pouvoir à la fois le conserver ou à la fois le passer à la prochaine génération. Et ça, c'est la plus grosse crainte. C'est effectivement parce que aujourd'hui, le prix des terres est totalement décorrélé du prix des vins. Et ça, c'est tout récent. C'est-à-dire, c'est vraiment, je prends un exemple assez simple, le domaine Angèle qui était vendu à Monsieur Pinault en 2004-2005, qui était suite au décès de Philippe Angèle, s'est vendu, je crois, de l'ordre de 16 ou 17 millions d'euros pour 5 hectares de Clos Vougeot, Échezeau, Grand Échezeau, et un domaine quand même de très belle qualité et très reconnu. Aujourd'hui, ce même domaine se négocierait plutôt aux alentours de 60. 2004. 2024.
En 20 ans, c'est une culbute.
Ouais. C'est 400%. Ouais. Donc 400% sur, en 20 ans, je pense que le milieu agricole, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le milieu agricole, que la vigne, c'est de la terre agricole, et qu'aujourd'hui, quand on voit que des valeurs de vignes sur des grands crus peuvent valoir jusqu'à 100 millions d'euros l'hectare, on se dit, effectivement, ça fait peur. Et encore une fois, faut jamais jeter la pierre à ceux qui le font. Mmh. C'est-à-dire que chacun a des bonnes raisons de pouvoir le faire.
Oh,
et il y a pas dans le sens où la seule mauvaise raison est de se dire je vends tout parce que c'est cher et parce que je vais pouvoir vivre très tranquillement de la vente de quelque chose qui a mis des années à se construire. Mmh. Et moi j'ai pas envie d'être cette génération-là. Mes enfants feront ce qu'ils veulent. Je fais en sorte de si un de mes enfants a envie de reprendre, qu'il le fasse. Et qu'il le fasse avec plaisir et avec passion. S'ils n'ont pas la passion, il ne faut pas qu'ils le fassent par devoir. Et si moi, je peux juste le dire, j'ai réussi à conserver le domaine et à le transmettre et que vous puissiez en faire quelque chose, faites-le. Et faites-le parce que vous avez envie. Si vous voulez pas et que vous voulez le vendre, vous allez le vendre et ça va vous permettre de vivre correctement le reste de votre vie. En fait, j'aurai la sensation, le sentiment d'avoir accompli un peu mon devoir. Peut-être pas forcément, l'idée que je m'en faisais, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que qui je suis pour juger. Et aujourd'hui, effectivement, la frustration est de se dire, on aimerait bien pouvoir développer notre domaine. On a une demande, on est passionné par faire plus de vins, d'appellations différentes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la possibilité de pouvoir s'enrichir de parcelles supplémentaires. Mais je dis s'enrichir d'un point de vue œnologique, c'est-à-dire de dire, moi, j'adorerais pouvoir faire un peu plus de Chambol, j'adorerais pouvoir faire un Moret, parce que j'adore ces appellations, c'est des appellations que j'aime, d'un point de vue organoleptique, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est mon goût, et j'en fais pas parce que j'en ai pas. Mais encore une fois, c'est pas grave. C'est juste après, on peut pas forcément assouvir toutes nos envies. Après aujourd'hui, effectivement, la valeur, la base des vignes est tellement élevée que en Bourgogne on peut pas. Alors on peut le faire ailleurs, on peut le faire en Beaujolais, on peut le faire sur des Bourgognes, on peut le faire sur des Hautes-Côtes, on peut encore le faire sur des villages. Après, encore une fois, on le fait au niveau qui nous est permis de le faire par rapport à nos capacités financières. Et si on peut pas le faire, on le fait pas. Après, je trouve pas ça dangereux le fait qu'il y ait des investisseurs qui arrivent sur le vignoble bourguignon, dans le sens où la Bourgogne a toujours été cyclique. Il y a toujours eu vraiment une forme de vente, de rachat. Moi, la famille Gébeler, après la crise de 29, elle a dû vendre la Tâche. La Tâche était la propriété de la famille Gébeler. Elle a été vendue au domaine de la Romanée-Conti. Et c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire, alors, il y a beaucoup qui me disent, ah ouais, vous devez être déçu, c'est pour y avoir les attaches. Je dis, non, j'ai juste une chance folle d'avoir des Clos-Vougeot, des Richebourg, des Saint-Georges, des Vosne-Romanée. Enfin, qui rêverait, enfin, beaucoup de vignerons.
C'est difficile d'être déçu de quelque chose qui s'est passé.
Mais bien sûr, mais beaucoup de gens se disent, ah, vous devez être déçu. Mais non, en fait, au contraire, faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et effectivement, moi, je suis extrêmement heureux de pouvoir avoir ce que j'ai. Ce que je dis, encore une fois, j'ai une énorme cuillère en or dans la bouche. Après, la vraie question, c'est la sauvegarde, la préservation. On est là pour passer le bâton, hein. On doit passer le témoin. C'est ça notre rôle. C'est pas de se dire, je suis assis sur un tas d'or, et si je les vendais, je pourrais m'acheter un gros bateau, je pourrais avoir une énorme maison dans le sud de la France. Vous savez, je vais pas trahir des secrets en disant ça, mais j'ai rencontré plusieurs grosses banques, des banques parisiennes, un peu éloignées de notre métier, qui étaient sûres de détenir les vérités financières, ce qui n'était pas forcément nos vérités à nous, mais bon, ça, chacun voit midi à sa porte. Et cette banque, un jour, m'a dit, mais Thibaut, vous avez pas un rêve? Il y avait une volonté de vendre, des choses comme ça. Il dit, mais non, j'ai pas, enfin, mon rêve, non. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai un domaine, j'ai des employés qui sont géniaux et passionnés, avec qui je fais un vrai boulot, un vrai beau boulot. Et en fait, mon rêve, il est là. Après, est-ce que j'ai envie de plus matériellement? Peut-être, mais j'ai tout pour être heureux. Donc, encore une fois, vaut mieux. Oui, mais si vous vendiez, ça vous permettrait d'avoir un petit peu plus, de faire plus de choses. Et moi, ma réponse, c'est toujours pareil. C'est j'essaie d'avoir une forme de, c'est pas tout le temps le cas, mais une forme de sagesse un peu paysanne, qui est pas forcément un vilain mot, qui est de dire vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et je préférais réduire mon train de vie, être chez moi et faire ce dont j'ai envie, plutôt que avoir trop gros et finalement pas pouvoir faire ce dont j'ai envie, être sous la coupe de quelqu'un qui m'expliquera comment faire, peut-être à tort ou à raison, peu importe. Mais en tout cas, j'aurais pas cette liberté. Et je pense que ma plus grande richesse, c'est ma liberté.
Je suis très d'accord là-dessus. C'est quelque chose dans lequel j'essaye aussi moi d'investir beaucoup sur le fait de pouvoir faire ce que je veux. Enfin là, c'est un exemple un peu bête, mais on est un vendredi après-midi et je peux être ici et partager un moment ensemble et pour moi c'est beaucoup plus précieux que...
D'ailleurs votre verre est vide.
C'est vrai, c'est beaucoup plus précieux que je suis à pied en plus donc...
Bah alors,
qu'une journée de travail supplémentaire sur autre chose. Donc ouais, non, je suis ultra d'accord là-dessus. Tout à l'heure aussi, on a parlé d'arrêt de la certification de biodynamie.
Oui.
Pourquoi avoir arrêté? Alors, est-ce que déjà la pratique de la biodynamie, est-ce qu'elle est toujours là? Bio, oui.
Alors c'est une grande bio, oui. Bio, enfin, la pratique du bio et de la biodynamie dans le sens moderne qu'on le connaît, oui, c'est toujours là. D'un point de vue certification, parce que c'est toujours pareil, il y a l'agricole et l'administratif. Donc l'agricole, il est toujours là. L'administratif, il est un peu moins là. C'est-à-dire que j'ai voulu conserver cette certification bio parce que je pense qu'elle est importante dans les statistiques. Je veux pas avoir des vignerons quelquefois qui me disent oui, je fais du bio, mais quand ça va pas, je repasse sur du chimique. Je pense que c'est un garde-fou qui est pas inintéressant et c'est pour ça que je veux le conserver. La biodynamie, c'est beaucoup plus un problème en fait de conviction personnelle. C'est-à-dire que je l'ai commencé en 2004, un peu avec le chant des sirènes de certains millions. Et encore, on n'en parlait pas beaucoup en 2004. Hein. C'était pas quelque chose qui était très courant.
Ultra récent,
hein.
En 2004.
Ouais, c'était pas récent en fait. C'était quelque chose de très ancien, mais qui n'était pas encore. Tout le monde n'en parlait pas
pratique,
exactement.
C'était le début. Ouais.
Et donc, j'ai rencontré des vignerons qui m'ont expliqué et m'ont dit ouais, c'est hyper intéressant parce que je trouvais qu'avec la bio, je faisais une sorte de recette appliquée, alors qu'à la biodynamie, ça m'ouvrait le champ des possibles. Avec une ouverture, une vision plus large et en fait je me suis rendu compte donc j'ai commencé ça, j'ai eu la certification en 2007 enfin bon et en 2012 j'ai décidé d'arrêter cette certification parce que je me suis rendu compte, fait un peu un travail sur moi-même, c'est l'année de la naissance de mon troisième enfant et je me suis dit en fait je crois en quoi dans la vie, parce que souvent les vignerons ou ceux qui penser peut-être donner une sorte de bonne parole de la biodynamie, disait Thibaut, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois à ce que tu fais. Non, je crois pas. Moi, je crois pas à ce que je fais. Moi, je crois à deux choses dans ma vie. Je crois en la science. Enfin, je crois en Dieu et en la science. Souvent, Dieu apporte une réponse, en tout cas un être supérieur, apporte une réponse que la science ne peut pas apporter. Mmh. Mais la science, elle est très importante pour comprendre un certain nombre de choses qui nous permet à un moment donné de mettre une sorte d'analyse, de quantification sur quelque chose qu'on a observé et qui nous prouve que finalement ce qu'on a observé c'est juste ou c'est pas juste. Mais en tout cas qu'il y a quelque chose de tangible. Parce qu'on est tous, même si on croit des êtres supérieurs, même si on croit en Dieu ou pas, on reste tous avec quand même un esprit très, très cartésien. L'homme avec un grand H est cartésien de nature. Donc il faut vraiment qu'il se fasse violence pour croire à quelque chose qu'il ne voit pas. Et donc moi je me suis dit j'ai pas forcément besoin de croire en la biodynamie parce que je crois en Dieu et que je pense que tout l'univers est réglé d'une manière au millimètre voire au micron et que c'est pas parce que je vais mettre cette préparation en disant ouais il va avoir quelquefois j'ai eu l'occasion d'essayer de lire Steiner. C'est illisible, c'est un monçon de conneries sur un, alors il y a des choses qui ont beaucoup de bon sens, c'est des choses on se dit il était un peu illuminé et j'ai pas envie de suivre c'est comme on dit précepte parce que il y en a qui me disaient oui mais moi je suis de l'école steinerienne. Je dis non, moi je suis pas du tout de cette école là.
La classe.
Ouais, ça pète la classe effectivement, c'est assez je suis pas du tout de cette école-là, je veux pas être dans cette école-là parce que je pense que l'agriculture a pas forcément besoin de ça, n'a pas forcément besoin de gourouisation et surtout n'a pas besoin d'un cahier des charges du bon sens. Parce que et si on enlève le mot biodynamie ou si on enlève les préceptes ou le cahier des charges des biodynamistes, finalement, le mot biodynamie a beaucoup de sens parce que c'est simplement ce qu'on pourrait appeler du bon sens paysan. Et moi, je dis souvent à mes employés, à mes collaborateurs, je leur dis regardez en avant, toujours en ayant un œil en arrière. C'est-à-dire regarder un peu dans le passé tout en regardant devant. Pas facile, mais toutes les nouvelles choses peuvent être bonnes, mais les choses qui se faisaient auparavant peuvent être aussi bien meilleur parce que nous permet de jamais aller trop vite. Et je pense que la biodynamie, beaucoup y sont allés un peu à corps perdu, billes en tête, en disant il faut qu'on fasse de la biodynamie parce que c'est bien. Non, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément bon, tout dépend comment on le fait. Et je vous donne un exemple très concret. J'ai un domaine ici, en Bourgogne, sur des argilo-calcaires, donc des sols basiques, donc pH supérieur à 7, et j'ai des sols dans le Beaujolais, sols granitiques, sableux, pH inférieur à 7, des pH de 6, donc des sols acides. Eh ben, croyez-le ou non, les conseils d'application de la biodynamie est exactement les mêmes, que ce soit sur des sols basiques argilo-calcaires que sur des sols acides granito-sableux, sableux-granitiques. On se dit, mais non, c'est forcément les deux fonctionnent différemment. Et donc à partir de ça, j'ai commencé, c'est aussi un peu ce qui m'a fait sortir de ça, parce que c'était 3 ans après la création du domaine, dans le Beaujolais, et je me suis dit, là, il y a un non-sens. C'est-à-dire qu'on nous pond une forme de cahier des charges, mais ça va pas. Donc je me suis dit, alors moi je me suis beaucoup rapproché plutôt de la connaissance et de la connaissance des plantes, et donc on fait beaucoup de tisane au domaine, d'associations de plantes. Je me suis beaucoup rapproché également des travaux d'Hildegard de Bingen, qui était une sainte qui avait du 15e siècle, qui avait beaucoup travaillé sur les effets des plantes sur l'être humain. Et en fait, on s'est rendu compte que les plantes, peu importe la cellule, qu'elle soit animale, humaine ou végétale, elle a des effets complémentaires. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est pas inintéressant, parce que au moins c'est quelque chose d'assez doux, et j'ai eu l'impression que la combinaison d'un certain nombre de plantes me donnait beaucoup plus de vie et puis surtout de défense immunitaire dans mes vignes, et donc voilà, donc j'ai été plutôt dans cette voie là tout en faisant en sorte d'appliquer encore certaines préparations dites biodynamiques qui pour moi semblent être intéressantes, mais sans aucun couvert de certification. Ouais. Qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Je pense que le au même titre que le, au même titre qu'un calendrier lunaire. Un calendrier lunaire, c'est très intéressant, mais il suffit de regarder le calendrier chrétien et vous avez le calendrier lunaire, en fait, hein. Jésus, il est pas né le 25 décembre, hein. C'est les équinoxes. Pâques, ça change chaque année parce que c'est les 13e lunes et c'est les équinoxes de printemps. Enfin, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que on n'a rien inventé du tout. On s'est juste dit que notre rythme était les rythmes des saisons et ce rythme des saisons était effectivement lié à ces solstices, ces équinoxes. Et en fait, à partir du moment où on sait que le 21 décembre, c'est les solstices d'hiver et que le 21 mars, c'est les solstices de printemps et que les 13e lunes, c'est à partir de la 13e lune, donc la 13e pleine lune, qu'on va avoir la semaine sainte et donc Pâques, on se dit, c'est que du bon sens, en fait. Il n'y a rien d'autre.
Ouais. Du coup, j'ai deux réactions là-dessus. C'est sur le temps passé à faire quelque chose et sur le bon sens paysan. En fait, je sais plus qui disait ça, mais il disait, il y a une forte probabilité pour que quelque chose qui existe depuis X années continue d'exister pendant la même durée. Donc, en fait, si on s'assoit sur des chaises depuis 2000 ans, il y a de fortes chances que dans 2000 ans, il y a encore des chaises. Et en fait, j'ai un peu l'impression que parfois, et surtout en échangeant là ensemble, qu'en fait, la biodynamie est venue, le mot biodynamie est un peu venu répondre à des abus qu'on a fait d'agriculture chimique ou de ouais même d'agriculture chimique tout court. En fait, l'agriculture chimique, elle a existé pendant 15 ou 20 ans, peut-être un peu plus, 30 ans. Elle a des chances d'exister pendant la même durée, 15 ans, mais que en fait l'agriculture traditionnelle ou empirique. Exactement. En fait, elle existe depuis toujours et elle a la forte chance d'exister pendant les 4000 encore prochaines années de
J'espère. Jordan, quoi. J'espère. Enfin, moi, je suis un éternel positif, un éternel je reste probablement convaincu que le monde va pas s'éteindre tout de suite. Donc contrairement à certains qui prévoient la fin du monde dans 30 ans. Non, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire que quelque chose qui est empirique et qui est là depuis que l'homme est homme et depuis que l'homme a besoin de se nourrir et prendre des fruits sur un arbre ou faire pousser du blé pour faire son pain, et j'ose espérer que dans 2000 ans, il continuera à faire son pain. Donc parce que 2000 ans à l'échelle de la Terre, c'est pas grand-chose.
Ouais.
Donc après effectivement, je pense que la culture chimique ou en tout cas les ersatz de d'agriculture qui finalement c'est beaucoup de poudre aux yeux pour faire croire à des agriculteurs qui ont perdu beaucoup de sens paysan, en tout cas beaucoup de bon sens, parce qu'on leur a dit que c'était extra, dans des périodes qui étaient difficiles, c'est-à-dire qu'on a profité de leur faiblesse, j'en veux pas du tout.
Ouais.
Aux agriculteurs, j'aurais peut-être été exactement dans la même chose si j'ai été né 20 ans plus tôt, probablement. Donc c'est juste qu'à un moment donné, faut réapprendre finalement à regarder, à observer et à faire le bon geste au bon moment. Donc c'est le geste juste au moment juste et de pouvoir simplement comprendre ce qui est bon, c'est-à-dire que je crois fondamentalement qu'on a la capacité d'être en lien avec le sol et de comprendre ce dont notre terre où on est né a besoin et sans forcément faire appel à des analystes, non faire appel à des engrais minéraux chimiques qui vont finalement mettre sous perfusion une culture et puis on voit ce qui se passe et tous les problématiques sans gluten et des mâches des gens qui sont enfin tout ce dérèglement est simplement lié à un moment donné à des modifications, j'allais pas dire génétiques, mais en tout cas à des formes de dérèglement liées à des pratiques qui ne sont pas des pratiques qui vont dans le sens de l'organisation naturelle des choses. Et donc forcément la nature se défend et elle fait des choses qui sont moins consommables et moins bonnes pour nous qu'elles le sont naturellement. Alors effectivement, on est plus nombreux sur la planète. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire ah oui, mais vous êtes on se doit produire plus parce qu'il y a plus de gens à nourrir et tout ça. Ouais, mais nourrissons les mieux et ils seront mieux lotis et il y aura enfin encore une fois alors après est-ce que c'est une tendance qu'on peut inverser, encore une fois j'en sais rien, En tout cas, moi, je reste un éternel positif et je pars du principe que tout ce qu'on peut faire, vous savez, Mère Teresa, elle disait chaque chose, chaque effet, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais sans cette goutte d'eau, l'océan ne serait pas complet. Et ben, je pense qu'on est des gouttes d'eau, mais qu'on a tous notre rôle à jouer. Et c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est de me dire c'est pas parce que je suis pas un défaitiste en disant ouais mais si je le fais ou je le fais pas le résultat sera le même, non, je suis là aussi pour peut-être poser une petite pierre, peut-être un caillou, peut-être un gravier ou un grain de sable, peu importe, je m'en fous, mais en tout cas j'ai tendance à pouvoir le faire, à aussi emmener mes enfants peut-être dans cette voie-là en disant bah, faites attention, triez, faites attention de pas ouvrir un robinet, éteignez vos lumières, venez dans les vignes et voir comment c'est fait. Ah bah oui, l'été je me lève à 5h du matin et je reviens à la maison à 9h, bah l'hiver je pars à 8h et puis je reviens à 7h ou 6h parce que c'est notre vie d'agriculteur et aussi parce que c'est le rythme normal. Donc le rythme normal, c'est pas l'hiver de se lever à 6h du matin et l'été de se lever à 8h du matin. On est fait ainsi pour avoir besoin de plus de sommeil à un moment donné et moins de sommeil. C'est le rythme qui est comme ça. Et peut-être juste réapprendre ça. C'est bête, hein. Ça peut paraître évident, mais c'est simplement apprendre le rythme des saisons et du temps vrai.
Ouais. Et puis c'est et ça s'incarne aussi ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que dire, ouais. Je trouve que attendre que tout change pour soi-même changer, c'est un peu facile versus se dire.
Puis c'est un peu égoïste.
Ouais, complètement.
C'est un peu égoïste.
Versus se dire, j'ai envie qu'on soit dans une société où on mange bien, je vais faire le choix de, si je peux le faire, évidemment, d'acheter des bons produits ou de me diriger sur certains produits.
Parce que je suis un gourmand et puis d'un point de vue purement personnel.
Et c'est vrai que
je peux pas mentir, je suis gourmand.
J'avoue que mon fromager, je passe le bonjour, j'essaierai de faire un épisode spécial avec mon fromager parce que je me régale. On a fait un bon tour ensemble, merci beaucoup pour ce temps, Thibaut.
Ces échanges.
On a évoqué plein de sujets, des sujets philosophiques, personnels. On a assez peu parlé de vin en fait directement.
Il y a pas besoin.
Mais il y a pas besoin. Ça qui est beau.
Je pourrais vous parler du vin, je pourrais parler des terroirs, je pourrais. Mais finalement, je pense que. Vous savez, souvent quand les gens viennent goûter à la cave, je commence à parler d'un terroir, le terroir par exemple des Saint-Georges qu'on est en train de goûter, et personnes quelquefois me disent, assez rarement aujourd'hui, me disent mais pouvez-nous décrire ce vin? Je dis non, je vais surtout pas vous décrire ce vin parce que ce vin, je vais pas, ma description ne va pas être la vôtre. Et moi, je peux vous parler du sol, je peux vous parler du travail qu'on a fait, je peux vous parler de ma compréhension de ce terroir. Et puis peut-être ça va vous aiguiller sur la manière dont vous goûtez ce vin, mais je vais surtout pas vous dire que ça sent le cassis, la framboise ou le ventre de lièvre à 6h du matin dans la prairie mouillée. Donc ça m'est déjà arrivé. C'est assez amusant. Ça a pas duré longtemps cette dégustation, pour être tout à fait franc.
C'est un peu long.
Et donc c'est effectivement on a passé un très bon moment et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une personne en face qui pose des questions puis qui nous permet nous peut-être d'aller un peu plus loin dans nos réflexions aussi, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense et puis il y a des choses qu'on dit et peut-être quelquefois on les dit sur le coup alors que c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à formuler auparavant. Donc il y a des choses que j'ai dit avec vous que je me dis tiens c'est pas con, ou tiens c'est une grosse connerie, ou tiens j'ai dit ça avant et c'est peut-être pas forcément la manière dont je le formule est peut-être plus juste. Donc on est constamment en train de penser à ça et finalement le résultat ça se trouve probablement dans la bouteille, en tout cas j'espère, avec le lot de millésimes, le lot de différents terroirs qui se goûtent, qui vont être plus ou moins réussis en fonction de chaque année. 2019 qu'on goûte aujourd'hui est un millésime que j'adore parce que je trouve qu'on a une vraie identité de terroir dans ces vins-là. Je dis souvent le vin a la gueule du lieu. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Je cherche pas, encore une fois, à signer mes vins. Je veux pas que les gens goûtent mes vins en me disant, tiens, ça, c'est un vin de Thibaut Ligé-Belair. J'ai envie qu'ils goûtent les vins en disant, tiens, ça, c'est un vin de Nuit-Saint-Georges et peut-être c'est les Saint-Georges. Et peut-être c'est 2019. Et c'est ça, l'objectif. C'est pas de se mettre en avant. Les vignes étaient là avant nous, elles seront là après nous. Encore une fois, le temps long, un peu la chaise. Il s'assied là, il s'assied sur une chaise depuis 2000 ans. Ils s'assieront encore sur une chaise dans 2000 ans. Et les Saint-Georges, ils étaient là il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, ils faisaient déjà du vin.
Ah, c'est cool.
Donc dans les Saint-Georges, et ça s'appelait déjà les Saint-Georges. Et moi, j'ai la chance d'avoir un peu juste le gardien du temple pendant 40, 50 ans, et peut-être plus, peut-être moins, et de se dire, ben voilà, je dois pas signer, je dois pas laisser ma trace, je dois juste faire en sorte que les vignes que j'ai récupérées dans un état, je les redonne dans un meilleur état, et que je fasse en sorte que les vins qui sont produits sur cette vigne soient bons, tout simplement. Faire du bon vin, c'est tout, c'est que ça. On peut se trifouiller les méninges, l'esprit dans tous les sens. Notre but, c'est faire du bon vin que les gens aiment et que les gens aient du plaisir. Alors effectivement, on peut parler d'émotion dans un vin. L'émotion, c'est notre quête, mais on n'a pas la recette.
Oui.
Par contre, quelquefois, ça arrive.
Vous n'avez pas le contrôle aussi là-dessus. Enfin, se rechercher quelque chose qui dépend pas complètement de vous.
Alors si, on recherche. On est constamment à la recherche de ça. C'était vraiment, si on pouvait avoir clairement faire en sorte d'arriver à faire un vin émotionnel à chaque fois et chaque année, ce serait génial. Mais je peux vous redonner la question. C'est-à-dire que la plus belle émotion que vous ayez sur un vin, je suis sûr que vous vous souvenez du vin, mais vous vous souvenez avec qui, vous souvenez du lieu.
Ouais.
Et en fait, c'est un ensemble de choses. Mmh. C'est pas simplement la bouteille. La bouteille était le vecteur.
C'est pour ça que quand je parle de pas de contrôle, en fait, ce serait être insatisfait pour toujours. Parce que peut-être que si dans la réserve de ce dîner-là, ça avait pas été des vins de la Romanée Conti, mais de chez quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être la même émotion, ou peut-être une émotion différente.
Enfin, une émotion et quelque chose. Et je pense que ça, il n'y a pas de recette. Mmh. Mais par contre, quand elle arrive, on se dit, tiens, c'est chouette. Moi, c'est arrivé plusieurs fois. Assez peu, pas souvent, mais de temps en temps, de personnes qui ont eu une petite larme en goûtant un vin dans la cage. Je me dis, tiens, je fais ce métier pour ça. Alors, pas pour que les gens pleurent, évidemment.
De mais plaisir.
Les gens se disent, tiens, on a apporté autre chose que simplement un vin. On va décrire le vin comme on l'analyserait plutôt que simplement d'en parler. Je dis souvent, il faut parler du vin, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut redonner le sentiment et pas l'analyse. Et je pense que c'est souvent des choses beaucoup plus vraies que simplement, quelquefois, des cultures un peu livresques qui donnent pas forcément la réalité de ce que les gens ressentent dans un vin. Encore une fois, à nous de faire en sorte que les vins soient vivants, apportent une émotion. Et un vin qui est vivant, ben quelquefois, il est un peu trop vivant et il peut partir du mauvais côté et pas forcément être bon. Et quelquefois, ça fait rentrer dans une autre dimension et on ne sait pas pourquoi. Et tant mieux qu'on ne sache pas.
Alors la transition n'est pas parfaite pour le coup, puisque je vais l'exact opposé, mais quoique.
Je vous ai quand même aidé. Hein.
Il peut y avoir.
Si pas, dites-moi.
Est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander?
Un livre sur le vin à vous recommander? Je me posais la question tout à l'heure.
Ce sera pas le Steiner.
Non, ce sera sûrement pas le Steiner.
Je pense que j'ai compris. Moi, j'ai beaucoup aimé, pendant que vous réfléchissez sur l'émotion, là, et puisqu'on est en Bourgogne, je le fais au passage, j'ai pas mal aimé « Si tu veux la paix, prépare le vin » de Laure Gasparotto.
Ouais.
Parce qu'elle parle beaucoup d'émotion, justement, de voyage, de découverte.
Je l'ai pas lu.
Je trouvais ça assez... c'est une ode à la Bourgogne, alors.
Ouais. Alors, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, très honnêtement. Je lis beaucoup plus de techniques et de choses comme ça. Donc, j'ai pas de livres comme ça qui me viennent... qui me viennent tout de suite, c'est assez malheureusement ça répond pas à votre question et ça part un petit peu, ça fait un peu plouf à la fin parce que j'ai pas forcément de livre en tant que tel.
Et au-delà du livre,
j'aurais tendance à penser au dernier livre de Jérémy Kuckermann qui fait l'ode au grand vin de Bourgogne, enfin au grand vin et au vin de terroir, où je trouve qu'il y a une approche qui est une approche esthétique et pas analytique dans quelque chose qui est assez accessible. Je trouve que on est sur aujourd'hui un peu un format qui est peut-être trop encadré, notamment dans les journalistes qui écrivent en Bourgogne. Je trouve que on trouve un peu les mêmes choses. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas justement un livre qui soit un petit peu plus dédié à la sensibilité et l'émotion plutôt qu'à une notation.
Mmh.
Il y en a un qui a commencé à faire ça, c'est Jasper Morris, dans ses guides. Et je trouve ça très bien fait. Je trouve qu'on a on se livre plus encore à des dégustations, mais moins à l'aspect émotionnel, ou en tout cas au sentiment. Disons, voilà, ce vin me rappelle ça. Et je trouve, j'aimerais bien qu'on retrouve, j'ai pas du tout la capacité, je suis pas du tout un littéraire, et je lis assez peu, malheureusement. Enfin, je lis beaucoup de choses, mais beaucoup de bribes. Mmh. Donc, je me mets pas dans un bouquin, en fait, je m'endors tout de suite.
C'est pratique aussi.
Oui, c'est une belle berceuse, mais effectivement, j'ai des journées assez intenses et j'arrive pas à me poser pour me dire, tiens, je vais lire. Donc, je lis assez peu, malheureusement. Et, si j'avais la possibilité de faire, de pouvoir exprimer les émotions du vin, je pense que ce serait intéressant. Et je crois pas que ce livre existe. Mmh. Enfin, si vous le connaissez, faites-moi savoir, je pense que je le lirai.
C'est peut-être à nous de l'écrire.
Donc, voilà, j'ai pas forcément de réponse, parce que je pourrais vous faire une réponse, mais elle serait pas vraie, et ça me ressemble pas.
C'est le principal. Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente?
Une dégustation coup de cœur récente. Alors, j'ai un vigneron que j'aime beaucoup et qui je trouve a une manière de vivre ses vins qui est assez étonnante, qui est Boris Champy, qui a repris un domaine dans les Hautes-Côtes. Et j'ai goûté récemment un de ces vins, où j'avais goûté plutôt des vins en cours d'élevage. Et là, je me suis dit, tiens, je vais au restaurant, je vais goûter un de ces vins. Et j'ai trouvé que c'est, entre guillemets, je vais dire simplement sans dénigrer, un Haute-Côte de Beaune. Je trouvais qu'il y avait une profondeur dans les vins qui allait au-delà de simplement le côté équilibré. Et ça a été vraiment une révélation, parce que je me suis dit, waouh, c'est comment il arrive à avoir, à la fois une révélation, peut-être une certaine jalousie, en disant ouais, il arrive vraiment à sortir quelque chose d'assez étonnant sur ces terroirs-là. Et j'ai trouvé ce vin assez bluffant. Donc domaine Boris Champy en Haute-Côte de Beaune, et je trouve que ça a été pour moi une vraie belle surprise.
Chouette. Et ben si on croise ça au restaurant dans les
ouais, essayez d'en trouver. Essayez d'en trouver, parce que ça vaut vraiment le détour.
On foncera.
Et c'est très accessible. Et ça, c'est chouette.
Carrément. Et dernière question. On a fait un large tour de tout ça.
Ouais, je crois qu'il n'y avait plus de piles, dans la.
Il n'y a plus de piles,
Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Enfin bon, bref. Je parle beaucoup trop. Je suis désolé.
Mais non, mais pas de problème. C'est ce qui fait aussi la beauté du podcast. Je pense que c'est ce que les personnes aime, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout d'une interview et aller dans l'échange avec quelqu'un, rentrer dans la profondeur de ça et pas juste quelques lignes ou des choses où on se coupe les uns les autres. Donc, enfin, moi j'y suis très attaché en tout cas. Donc,
ouais.
Je suis content que ça dure longtemps, parce que c'est le synonyme d'une bonne discussion. Mais pour la conclure, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer?
La prochaine personne que je devrais interviewer, j'ai beaucoup de gens que j'ai en tête, mais il y a je réfléchis, peut-être je fais quelque chose de trop cérébral, mais parce qu'il faut quand même des gens qui peuvent exprimer. Je pense que, je sais pas si vous avez déjà interviewé Guillaume ou Anselm Solos.
Non, pas encore.
Je pense que c'est des gens qui ont une vision philosophique des choses qui est étonnante et qui est évidemment très connue. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur fasse qu'on les mette en avant, et je pense qu'ils vont peut-être me détester quand
tu recevras un mail de ma part.
Un mail de votre part en disant c'est Thibaut, ok, on va dire oui. Mais je trouve que en fait il a un attachement aux choses belles et avec une vision qui est une vision, moi il m'a beaucoup inspiré Anselm et son père Guillaume est plus jeune, mais Anselm c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et avec qui je suis assez copain maintenant. Et je trouve qu'en Champagne il y a pendant Anselm Solos, je pense aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup qui a une vision des choses, et peut-être je réfléchis tout en vous parlant, Pascal Agrapard qui a beaucoup de bon sens. C'est quelqu'un que j'adore et je trouve qu'il a un bon sens absolument incroyable. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche sans que ce soit inutile. Donc, et je trouve qu'il y a une vision des choses très pragmatique, très très vraie, très juste, sans esbrouf. Et je trouve qu'on retrouve dans ces vins aussi. Donc, peut-être plutôt Pascal Agrappa. Ouais.
Ça marche. Eh ben, c'est noté. Comptez sur moi pour les contacter.
Ouais, contactez-les.
Dans les prochaines semaines.
Et dites-leur bonjour de ma part. Je vais les voir bientôt.
Ça marche. Eh ben, je transmets. Pour les personnes qui nous écoutent, restez à l'écoute de ce podcast, évidemment, puisque vous aurez sûrement, l'occasion d'avoir ces nouveaux invités, dans vos oreilles, dans votre casque. Enfin, bref, je vais pas m'étendre sur comment est-ce que vous écoutez le podcast. Thibaut, merci beaucoup
pour le temps
que
vous avez
accordé ce soir. C'était
je sais pas combien de temps ça a duré.
J'en ai aucune idée.
Une heure quarante. Pas mal.
Je pense que c'est proche du record. Il va falloir vérifier, mais on n'est pas loin. On aurait pu continuer, mais...
Avec grand plaisir.
Mais ce sera pour un prochain épisode, un épisode 2 dans quelques années.
Pourquoi pas.
Si cet épisode vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Trouvez une bouteille de Thibaut Ligier-Belair pour la déguster en même temps ou pour réécouter ce podcast au passage.
Et des jeunes pousses.
Et de jeunes pousses, pardon. Ouais. Évidemment.
Il y a des vins à vendre et évidemment. Il faut venir découvrir ce beau projet et soutenir ce projet, les vins de Thaïs et Juliette qui sont, je pense, des vins avec beaucoup d'énergie et assez émotionnels. Donc à découvrir.
À découvrir, clairement. Donc, domaine des jeunes pousses. Et comment s'appelle le domaine des précédents jeunes pousses aussi?
Alors, c'est le domaine Obora.
Domaine Obora, comme ça.
Donc, exactement, Angela et Hugo, qui sont sur Chéna et Juliena, et donc, qui font des très jolis vins et avec aussi beaucoup de profondeur et de précision. Donc, à découvrir.
Et voilà. Donc là, vous avez la liste. Normalement, c'est tout bon. Je vous souhaite le meilleur. Thibaut, merci beaucoup et à bientôt.
Grand merci, à bientôt.